Les sportifs, ils peuvent se foutre de ma gueule s'ils veulent. S'ils veulent. Mm. Ça me gêne pas, mais moi je me fous de la leur. Bumpy.
Bonjour, bienvenue, vous écoutez l'épatant podcast Omnisport, le podcast qui parle du sport au passé et du passé à l'imparfait. Et ce mois-ci, EPO n'aura jamais aussi bien porté son nom, bah oui, parce qu'on va parler de cyclisme et plus particulièrement d'une de ses légendes, l'Italien Marco Pantani, immense champion, vainqueur du Tour de France et du Tour d'Italie, tragiquement disparu le 14 février 2004 à l'âge de 34 ans. Durant toute la durée de ce podcast, nous reviendrons sur la grandeur et la décalance d'un coureur à la marge, auteur d'une ascension fulgurante vers les sommets du cyclisme, à plus d'une descente tragique aux enfers qui conduiront vers une mort un peu prématurée quand même. Et pour parler de Marco Pantani, je suis très heureux de retrouver mes fidèles camarades, Olivier,
yo,
Sarah,
bonsoir Mickaël,
Younes,
salut à tous.
Mais avant de plonger dans le vif du sujet, on va s'écouter évidemment une petite archive.
Une grande figure du cyclisme italien qui est décédée hier à Rimini, Marco Pantani, ancien vainqueur du Tour de France et du Tour d'Italie, a été retrouvé mort dans un hôtel pour des raisons encore inconnues. Des médicaments ont été découverts près de lui. La nouvelle a provoqué la consternation en Italie, où nous retrouvons Maurice Olivari et Karine Guillaume.
C'est dans cet hôtel résidence où il avait pris pension depuis quelques jours que le corps de Marco Pantani a été découvert hier soir. Mort depuis 3 ou 4 heures, et avec à ses côtés plusieurs boîtes de médicaments anxiolytiques, dont une au moins complètement vide. On ne peut exclure aucune hypothèse, précise le procureur chargé du dossier. Tout est possible. Alors, suicide, overdose ou simple accident, l'autopsie le dira très vite. Au moment où le corps de l'ancien champion quitte la résidence, quelques supporters déjà lui rendent hommage et l'applaudissent. Et les membres de sa famille, arrivés très vite sur place, regardent déjà la presse d'un œil accusateur. Car une chose semble d'ores et déjà acquise, Marco Pantani, depuis quelque temps, était au bout du rouleau. Il était loin le temps où son village et l'Italie tout entière l'accueillaient comme un héros, lui qui venait de remporter le Tour de France en 1998, juste avant que des affaires de dopage en rafale ne fassent de lui un faussaire et un pestiféré. En tout cas, quelles que soient les causes physiologiques de sa mort, une chose semble certaine, directement ou indirectement, c'est le dopage qui a coûté la vie à Marco Pantani.
Donc ce serait le dopage qui aurait coûté la vie à Marco Pantani.
Ouais, oh, ouais, je sais pas, ouais,
c'est quand même si peu. On s'avance comme ça.
Alors, on va parler évidemment de la mort, on va beaucoup parler de la mort de Marco Pantani, mais on va aussi quand même pas mal parler de sa vie. Mais avant de parler de ce champion grandissime, je vais faire un petit tour de table, je vais vous poser une question à chacun d'entre vous. Déjà, est-ce que vous aimez le cyclisme et est-ce que vous suivez le Tour de France? Je vais commencer par Sarah.
Je ne suis pas du tout le cycliste.
Très bien. Voilà.
Et je n'aime pas beaucoup le Tour de France.
Oui, forcément, c'est un peu lié. Je pense.
Forcément, j'ai jamais trop accroché.
D'accord.
J'y connais pas grand-chose, mais okay. Je suis contente d'être là.
Bah oui, mais on est contente de te recevoir aussi. Olivier, toi alors?
Alors moi, je déteste le cyclisme, mais j'adore le Tour de France.
C'est vrai.
Non. Je ne sais pas quoi répondre à cette question. Je crois
alors
que
ne réponds pas.
Très bien, je me tais. Allez, au revoir. Je crois que j'aime le Tour de France parce que ça représente déjà la Madeleine de Proust, mon enfance. Enfin, oui. Je sais pas, il y a beaucoup de choses. Tu vois, tu passes des... D'abord, quand t'es enfant, tu vois des gens regarder le Tour de France, et puis les étapes de montagne,
une carte
et puis ce
postale.
Que ça raconte, la fameuse carte postale, et alors, dans le château de Briançon, dressé en 1812. Il y a ça, et puis il y a aussi le fait que quand tu grandis, quand t'as une journée de glande, l'été, ça rappelle l'été en fait.
Ouais.
Ça rappelle l'été, ça
mais
non, mais un petit peu.
Les vacances, c'est voilà. Ça.
Moi, je peux dire, j'ai passé des vacances où je revenais, j'étais tout blanc, et les gens me disaient, mais t'es pas parti en vacances? J'ai dit, si, mais je regardais le Tour, je sortais pas la journée, tu vois.
Et puis après, c'est vrai que ça, évidemment, le dopage, on va pas faire notre... Voilà, je pense que dans tous les sports, il y a du dopage et dans tous les sports,
quoi,
il y a des magouilles.
Comment?
Non, enfin, sauf dans le football. Mais sinon... Et alors, il faut quand même que je vous dise que je suis particulièrement content aujourd'hui parce qu'on enregistre, Marseille vient de gagner avec un incroyable de Thauvin. Et donc, on est quand même content, mais ça n'a rien à voir.
Dijon voilà. A fait un bon match nul aussi, je suis content.
Dijon a fait un bon match nul.
Mais Tavares est blessé.
Ouais, un mois, ça va être un peu compliqué.
Mais on parlera de tout ça dans Tavares Cast. Et donc, je vais passer la parole à Younes. Alors, toi, le vélo, comment ça se passe? T'aimes bien?
Ah, moi j'adore.
Ouais. Ah, je suis heureusement qu'il est là quand même.
Ah, non, mais moi je suis piqué à ça, le Tour de France quand ça commence, les critériums, Tour d'Italie, la Vuelta.
Ah ouais, les critériums.
Tu regardes les critériums.
La Vuelta, ouais, bah ouais, je les suis, ouais, je les suis de près, ouais. Alors je les suis pas forcément à la télévision.
Mais depuis que t'as plus ton idole Louison Bobet, c'est un peu difficile de suivre le cyclisme.
Ah, il reste les posters, il reste les posters.
Les posters.
Dans Cyclisme Magazine.
Dans Cyclisme.
Donc, fan de vélo.
Fan de vélo, ouais. Et puis, forcément, bah, comme Olivier, souvenir d'enfance. Et puis, pourquoi particulièrement le vélo? La personnification des fois des héros en fait de ce Tour de France qui fait de ces personnages en fait des super-héros en fait très rapidement tu t'attaches à des personnalités, c'est construit par les journalistes.
Bien sûr.
Quand t'es un enfant en fait tu regardes ça et en fait tes cousins aimant ça, la famille aimant ça, etc. Tu te dis tiens là ils sont là. Et j'ai aussi eu le bonheur d'assister à plusieurs arrivées sur les Champs-Élysées.
Moi aussi j'en ai fait une en français qui a gagné, je pense.
C'est vrai.
J'ai même fait le départ de la 100e à Montgeron. Donc,
tu pars tous les ans en vacances à Montgeron.
Tout à fait, voilà, au camping de Montgeron. Non, en fait, c'est historiquement en fait le départ.
Ça a deux étoiles, Lili.
C'est le départ du premier Tour de France. Et donc, pour la 100e, ils sont revenus aux sources
à Montgeron.
À Montgeron, voilà, dans l'Essonne. C'est direct RERD.
C'est encore cette grosse Rosie là qui s'occupe un petit peu de.
C'est la grosse Rosie, du bar de l'étape. Du bar du départ.
Mais par contre, moi, je suis d'accord avec Younes sur le fait qu'il y a quelque chose de très héroïque, ou en tout cas mythique, même dans la présentation. Les journalistes qui quand ils racontent, même quand tu vas voir cela pour la documentation, tu vas voir les résumés des étapes, il y a vraiment quelque chose de très presque biblique, j'allais dire, dans la façon de présenter, que ce soit Pantani, que ce soit Virenque, que ce soit aussi les grands champions.
Mais tout ce côté-là, je trouve qu'il est quand même vachement gâché par tout ce qui est dopage autour, quoi, finalement.
Oui, on va pas avoir un débat là-dessus, parce que ce serait très long, mais c'est aussi un des sports les plus contrôlés, c'est là où le dopage est le plus médiatisé. Mais quasiment tous les sports. Est-ce que t'as des souvenirs de Pantani, toi?
Ah ben carrément, en fait, ça a été...
Oui, parce que de toute façon, t'as des souvenirs d'Eddy Merckx, déjà.
Non, mais de Louison Bobet, vous
êtes prêts. Tout à fait. Non, mais j'en ai des souvenirs, parce que c'est la période où tu t'intéresses vraiment aux choses en comprenant les choses, en fait. La grande différence d'être fan de quelque chose et de pas comprendre est finalement juste.
Alors il y a une dimension effectivement assez opaque dans le cyclisme.
Quand tu commences à comprendre les codes, à savoir que c'est surtout un sport d'équipe et aussi un sport individuel, et que à son âge tu commences à voir en fait que lui se détache et qu'il est vraiment une personnalité en plus d'être très fort.
Un style.
Avec les surnoms qu'on lui prête, etc. Forcément, je m'en souviens vraiment très bien, quoi.
Alors pour ma part, moi je suis comme Younes, j'adore le cyclisme. Enfin. J'adore le cyclisme, j'adore surtout le Tour de France, parce que c'est en fait, je suis quasiment que le Tour de France. Je suis un peu le Giro depuis que l'équipe 21 a eu la bonne idée d'arracher les droits de diffusion. Ça, c'est cool.
Fantastique.
Mais c'est pareil, c'est un souvenir d'enfance. Moi, le Tour est passé en bas de chez ma grand-mère en 92. J'y étais allé, on a attendu toute la journée. C'était une étape de plat, donc t'attends toute la journée. Et t'as un peloton qui va à 100 à l'heure qui passe d'un coup. Ça dure une seconde. Et après, tu rentres chez toi, mais t'es content. T'as vu la caravane passer et tout.
Et t'as pris un coup de soleil.
Alors, c'était la grande époque Indurain, je crois, à l'époque.
Ah, Miguel.
Et moi, j'adore le cyclisme parce que c'est un sport qui cache vachement son jeu, en fait. C'est-à-dire que quand tu regardes des étapes et que tu connais pas grand chose de cycliste, t'as l'impression de voir juste un peloton pédaler et puis basta, quoi.
Ouais.
Alors qu'en fait, effectivement, comme tu dis, c'est un sport d'équipe. Alors il y en a qui disent que c'est le plus collectif des sports individuels. Moi, je pense que c'est même carrément le plus individuel des sports collectifs, en fait.
Oui,
c'est beau ce que tu dis.
J'en pleure.
C'est vrai que moi, la seule fois où j'ai apprécié une étape du Tour de France, j'étais avec un copain qui adorait ça et en fait qui m'a tout expliqué. Qui me disait, lui, il est comme ça, lui, il est dans sa roue, lui, truc, etc. Et d'un coup, ça prend vachement plus d'intérêt que de regarder des mecs pédaler, quoi.
C'est aussi pour ça que les étapes de montagne sont si intéressantes, incroyables à regarder. Ouais. Non seulement parce que c'est la montagne, parce qu'il y a un effort presque surhumain à franchir l'Alpe d'Huez et compagnie. Mais aussi parce que là, la stratégie et la tactique de chaque équipe est complètement...
La stratégie et la tactique, il y a sur l'ensemble d'un grand tour, en fait, il y a une stratégie tactique. Parce qu'il y a des équipes qui vont miser sur les sprinteurs, il y a différents Mario, enfin bref. On va pas rentrer non plus dans les détails.
Spécialistes, oui, bien sûr. Dans chaque équipe, il y a des spécialistes. Certains spécialistes sont au-dessus du lot et certaines équipes misent sur certaines étapes.
Voilà, chaque équipe a des objectifs différents, en fait. C'est ça.
Enfin, bon.
Bref, moi, pour le coup, Pantani, j'étais un peu jeune à la grande époque Pantani. Moi, j'ai les souvenirs du Pantani 2000. En fait, parce que moi, j'ai surtout suivi le Tour à l'époque Armstrong. Effectivement, j'ai plus de souvenirs à cette époque-là. Autre personnage, dont on fera peut-être un épisode de PO. Alors, avant de parler de la vie de Pantani, on va le présenter en quelques mots. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut nous en parler un petit peu?
Oui, bien sûr, moi. Je me suis un peu renseigné.
Bah, Sarah, alors.
Il est italien.
Il est italien, figurez-vous, Marco Pantani.
Il est chauve.
Le 13 janvier 1970. Janvier est un bon mois pour naître. Il est né dans la belle ville de Cesena.
Cesena.
Oui, je fais des Cesena. Doublages de films italiens.
Oui, ça, oui, t'as fait tout Pasolini d'ailleurs.
J'ai fait tout Pasolini, tout à fait. Donc Cesena, qui est une charmante ville de 97 000 habitants, que l'équivalent en termes d'habitants, pour rester dans le truc un petit peu. C'est une ville moyenne au bord de l'Adriatique.
Créteil, quoi.
C'est Roubaix plutôt.
Roubaix.
Voilà, Roubaix.
D'accord.
Rester un petit peu, voilà.
D'accord.
97 000 habitants, très très charmant. Je vous invite à aller visiter la ville de Cesena. Il y a une très belle place qui s'appelle la Piada de Popolo.
D'accord.
Avec une très belle fontaine Massini.
Ah, il faut savoir parce que les gens voient pas, mais t'es venu avec le routard de Cesena.
Attends.
Et t'as le routard de Roubaix d'ailleurs.
Alors attendez, je tourne la page du routard. Voilà. Alors les restaurants. Donc là j'ai trois petits bonhommes pour le restaurant qui est juste à côté de la place.
Trois petits bonhommes.
Attends,
mais Jacquet qui fait le guide du routard.
On est d'accord qu'entre un choix entre trois petits bonhommes et un, tu vas aux trois.
Ah bah oui, bien sûr. Bah oui, c'est beaucoup sûr. Plus cher.
Voilà. Trois petits Diomèdes.
Donc bah voilà, pas grand chose à dire. Il a commencé sa carrière dans les années 90. Il a gagné le Baby Giro.
Oui, alors il faut... c'est quoi
le Baby Giro? C'est pas du tout des joueurs que tu avec des manettes,
des cyclistes.
C'est le Giro amateur, on va dire.
C'est un peu comme le tournoi des as des petits as à Roland Garros, c'est ça, non?
Je sais pas ce que c'est le tournoi des petits as. Je déteste Roland Garros.
Et ben ça tombe bien, c'est le sujet du prochain.
Bon, pour dire, donc il est engagé donc amateur, il gagne le Baby Giro en 92, en 93, la prestigieuse équipe de la Carrera l'engage en tant que cycliste.
Professionnel.
Contrat pro.
Alors, faut savoir que c'est donc il a un physique particulier, il fait 1m72, 57 kg. Mm-hmm. 1m72, 67 kg. Vous connaissez pas cette chanson de...
Non, mais vas-y,
chante
62 kg. Sois plus dans la vie, c'est un costaud au micro. Vous connaissez pas ça?
Non. Mais on pourrait peut-être faire un duo par contre, parce que je sens qu'il y a du talent dans cette
équipe. On a deux immenses chanteurs là.
Il a le physique parfait pour être un grand grimpeur.
Ouais.
Il démarre très très fort au moment où ça commence à grimper. On le compare à deux autres grands grimpeurs de l'histoire du cyclisme, qui est Charlie Gaul, le fameux mec qui a fait l'appel du 18 juin, et Lucien Van Hyp, que je ne connais pas, mais qui a un nom qui est un petit peu cool.
Figure ça, je ne connais pas non plus. Alors pourquoi on l'appelle le pirate? Parce qu'il a un petit surnom.
En fait, il a deux surnoms. Qui n'est pas très avantageux pour lui.
Il est pas très sympa.
Et l'éléphantine, parce qu'il a les oreilles cartes.
C'est surtout le nom.
C'est Dumbo, en fait.
Qui en fait Dumbo, voilà.
C'est le nom de Dumbo en italien.
Et le pirate, pourquoi? Parce que, il a une manière de vivre et une manière d'attaquer. Qui est très particulière, très agressive.
Le couteau entre les dents.
Et aussi le bandana, les boucles d'oreilles.
Voilà,
les tatouages.
Il a une boucle d'oreille, un bandana. Il court toutes ces étapes avec un perroquet sur l'épaule droite.
Et une jambe de bois.
Il est obligé aussi d'attacher sa jambe de bois à la pédale.
Et puis le crochet au guidon, c'est chiant. Dans les descentes,
pour le frein, c'est compliqué. Il peut se servir qu'un frein. Souvent, il fait des soleils.
Il freine avec le crochet, c'est ça.
Voilà pour la présentation. En gros, 93.
Il a joué de
carrière. 97, on en parlera plus tard. Il rejoint la Mercatone Uno. C'est là où il est vraiment
comme tu l'as dit, 92, il gagne le Baby Giro, premier Giro en 93 après avoir intégré l'équipe Carrera Jeans. En 94, il court son deuxième Giro.
Oui.
Il finit deuxième.
Bon, c'est pas mal.
C'est pas mal.
Il gagne deux étapes. C'est
très bien.
Et il remporte deux étapes,
dont une contre Indurain qui était,
Le grand champion de l'époque.
Il confirme les espoirs. En fait.
Et d'ailleurs, je crois qu'il finit devant Indurain. Il finit deuxième derrière.
Oui, c'est ça. Berzin.
Voilà.
Il finit devant Indurain. La même année, il court le Tour de France.
Il finit troisième. C'est pas mal quand même.
Bon, il fait un début de carrière.
Deux ans qu'il est professionnel, le type.
Ah ouais. Et puis en plus,
on va dire qu'officiellement, il est connu là.
C'est quand même plutôt. Toi, tu le sais, c'est quand même assez difficile d'enchaîner Giro et Tour de France.
Oui, il le sait parce qu'il le fait tous les ans.
Il le fait tous les ans. Mais alors lui, il cartonne. Alors le public, évidemment, le public en particulier, le public français, commence à connaître. Mais c'est en 95 qu'il va vraiment éblouir le Tour de France. Qu'est-ce qui se passe en 95? Il va gagner une étape mythique.
L'Alpe d'Huez.
Et voilà, la fameuse Alpe d'Huez.
Après avoir raté le Tour d'Italie d'ailleurs cette année-là.
À cause d'une blessure.
Ce qu'est l'Alpe d'Huez.
Il rate le Tour d'Italie parce que c'est là où. Ah non, c'est Milan-Saint, parce qu'il a beaucoup de chutes.
Voilà, alors sa carrière est.
Est jalonnée de blessures. De blessures.
Comme il est très agressif dans sa façon de. Il prend tous les risques.
Exactement.
Et c'est vrai qu'il a. Je crois que c'était à Turin, en 95, où il rate le Giro à cause d'une chute à l'entraînement.
Je crois qu'il chute à l'entraînement. entraînement.
Peut-être pas.
Si si, je crois qu'il chute juste pas longtemps avant le Tour de France à l'entraînement.
C'est pas Turin, je crois que c'est Turin, c'est peut-être après.
Ouais. Un peu une personnalité à la Nibali un petit peu.
Alors ouais. Oui, d'ailleurs Nibali adorait Pantani. Ouais. Il a d'ailleurs offert pour la petite anecdote, il a offert son maillot jaune Vincenzo Nibali à la mère de Pantani l'année où il a gagné le Tour de France.
Ah, je le savais pas.
Tu vois, c'est beau. Ah oui, j'ai lu l'anecdote aussi.
C'est beau.
Alors l'Alpe d'Huez, qu'est-ce que c'est l'Alpe d'Huez ? Étape mythique du Tour de France. D'ailleurs, avec Younes, on va passer une petite annonce, on en profite. Ouais. Parce qu'avec Younes, on aimerait, c'est notre rêve de vouloir courir l'Alpe d'Huez. On essaie d'organiser ça depuis des années, à chaque fois on ne peut pas. Si jamais vous avez des plans logement et location vélo du côté
si
de l'Alpe d'Huez.
Vous voulez nous accueillir et nous prêter des vélos.
Exactement, on est très très chaud, on adorait faire l'Alpe d'Huez. Alors, 1995.
Tout ça pour ça.
Alpe d'Huez, 12 juillet 95. Nous sommes à la 10e étape.
12 juillet, jour donc de la victoire de la Coupe du Monde en
France. Il me semble qu'on en a parlé l'année dernière.
Jour
de
la victoire de la Coupe du Monde de la France en 90. Et jour de la Saint-Olivier. Hein. Je dis ça, je dis rien. Voilà.
C'est fou, il y a des signes comme ça qui ne font pas. Alors, c'est une étape de 162,5 km. C'est une étape qui est très dure parce qu'elle passe, l'étape passe par le col de la Madeleine, le col de la Croix de Fer pour arriver enfin à l'Alpe d'Huez. Donc ouais. C'est que des cols qui sont extrêmement difficiles à négocier.
Difficulté sur difficulté pour finir sur une grosse difficulté.
Ouais, pour finir au sommet de l'Alpe d'Huez.
Vraie histoire de ma vie.
Pour la petite anecdote, à Saint-Jean-de-Maurienne, donc sur l'étape, Laurent Brochard.
Je connais bien Saint-Jean-de-Maurienne, pardon.
C'est vrai, tu passes des vacances aussi ?
J'y vais tous les ans quasiment.
C'est
vrai.
Ah, c'est génial, dis donc. Et bah, tu penseras à Laurent Brochard.
J'y penserai très fort.
Alors, c'est le premier qui passe à l'offensive, à la Croix de Fer. Et par vagues successives, il y a 13 hommes qui vont prendre la tête, qui vont partir. Et parmi eux, on a Virenc, Jalabert, Gotti, Escartine et Breunel. Donc, que d'excellents grimpeurs.
Des cadors
à l'époque. Et le groupe maillot jaune dans lequel se trouve Pantani est pointé à 1,25 au sommet du col de la Croix de Fer. Dans la descente et dans le plat, l'écart se réduit à 50 secondes.
Ouais.
Et à 12,5 km du sommet, Pantani place une attaque. Et vous allez écouter cette petite archive, vous allez voir, c'est assez impressionnant.
Richard Virenc doit absolument accélérer s'il veut résister au retour de Pantani. Jean-Paul.
Oui, Pierre Meurice vient également de sortir du groupe maillot jaune. Il a fait une dizaine de mètres au leader et à Gérard Huet, bien sûr, qui conduit ce peloton maillot jaune. Enfin, peloton de quelques groupes, un petit groupe.
On le voit sur l'hélico, en effet. Voilà, oh là, le retour de Pantani était absolument éblouissant, là.
Il a dépassé Bolt également.
Pantani au virage 20 qui va revenir en tête de la course. Je vous rappelle qu'Eli a été repris. Que pour l'instant, c'est un petit groupe qui est en tête de la course. Alors que ceux qui composaient le groupe de tête, dont Simoni, sont repris les uns après les autres par Marco Pantani. Lancé donc à la poursuite de Richard Virenc. Impressionnant numéro de Marco Pantani. Regardez comme il dépose ses adversaires. Alvaro Meria en est là, l'une des victimes.
Meria Munoz avalé par Pantani.
Virage 19 pour Pantani. Oh, quel numéro.
Quel numéro ? Ça t'a rappelé des souvenirs, Younes, hein ?
Oui, carrément.
Merci, fini ton gâteau.
Ah, t'as pris un petit biscuit. Il a pris un petit biscuit.
Alors, ce qui est incroyable dans cette étape, donc on l'a dit, hein, Pantani, c'est un pur grimpeur, parce qu'il y a plusieurs types de coureurs hein, en cyclisme. Grosso modo, on a les sprinteurs qui gagnent les étapes de plat, les rouleurs qui gagnent les contre-la-montre. Donc les contre-la-montre, en fait, chaque coureur part les uns derrière les autres, et c'est celui qui fait le parcours en moins de temps. Et on a les grimpeurs qui sont très forts en montagne. Pantani, c'est sa spécialité.
Les maillots sont prestigieux et il n'y a pas que le maillot jaune en fait qui compte dans le Tour de France.
On peut peut-être rappeler qu'il y a donc il y a le maillot jaune qui est le maillot du classement général, le maillot à poids,
le maillot à poids
du meilleur grimpeur, le maillot vert qui est celui du meilleur
sprinter.
Et ensuite il y a aussi le maillot blanc qui est
meilleur jeune,
qui est meilleur jeune que Pantani a eu je crois en 94 je crois.
Deux reprises je crois.
Oui, quand il l'a eu à 94.
Voilà, donc il n'y a pas qu'un seul objectif qui est le maillot jaune. Donc effectivement, le meilleur grimpeur, c'est un maillot qui est à l'époque le maillot champion, je crois.
Mais on a beaucoup vu Richard Virenc dans ce maillot-là.
Effectivement.
Ouais, exactement, ouais.
Alors, en fait, ce qui est impressionnant, c'est qu'il fait cul de boucher de tous les hommes qui se sont échappés. Il les rattrape un par un. Il les rattrape vraiment un par un. C'est incroyable.
Il les avale.
Il les avale dans la montée de l'Alpe d'Huez. Hein.
Il va battre d'ailleurs le record de montée de l'Alpe d'Huez.
Voilà, exactement. Alors, il se fait une petite frayeur. Je ne sais pas si vous avez vu les images. Il se fait une petite frayeur. Ouais, à la fin, dans le dernier virage, en fait, il fonce dans les barrières. Ouais. Je pense que son bandana a dû lui tomber sur les yeux.
Il a un problème de vue.
Mais là, il n'arrivait pas à freiner avec son crochet.
Avec sa jambe de bois, il a mis un coup de pédale à côté, en fait. Ouais.
Et donc il arrive donc premier après avoir dépassé tout le monde.
Je crois qu'il met 1 minute 24 à Indurain par exemple.
Alors il met 1 24 à Indurain, exactement, qui arrive deuxième. Hein.
Ouais.
Qui arrive deuxième Indurain. Hein. Donc il met 1 24 à Indurain.
C'est surtout une attaque psychologique à ce moment-là en fait.
Ouais, alors après, sur ce tour-là, en 95, je crois que Pantani arrive 13ème du tour.
Ouais. Il a une couille à la fin.
Il finit 13ème du tour, voilà.
Et c'est marqué aussi par le décès d'un Italien, ce tour-là.
Oui, exactement.
Alors, ses amis, d'ailleurs. Ouais.
Alors, terrible, je me souviens parce que mon père, horrible. C'était justement, c'était la première année que mon père regardait le Tour de France, il venait de se faire opérer du genou et il a vu ce truc-là en direct. Oui, j'ai vu. Il a vu la mort de l'Italien en direct. D'ailleurs, c'était un coéquipier d'Armstrong, je me souviens, parce que Armstrong avait dédié sa victoire.
Ah ouais.
Le lendemain, Armstrong gagne et il dédie sa victoire.
Il faisait partie des Sky ou rien à voir?
Non, Armstrong n'était pas...
Non, quelque chose. Je ne sais plus, je ne veux pas dire de bêtises, mais...
Donc, aujourd'hui encore, cette étape de Pantani reste le record de l'Alpe d'Huez.
37
minutes. Qui n'a jamais été battu. 36,50. Sur 13,8
km.
Moi,
j'ai 37,35.
Ouais, moi, j'ai 37,35.
Bah, dans le bouquin de Philippe Brunel, c'est 36,50.
Et bien, peut-être qu'on
je
nous
pense
ment.
Qu'il a raison. Et ce qui fait du 22...
Philippe Brunel, tu veux dire Jaffar, le dimanche?
Oui, Philippe Brunel, que vous pouvez retrouver à Disneyland tous les dimanches.
Ce qui fait du dans le rôle de Jaffar.
48 km/h de moyenne. Donc
c'est ça qui est
absolument impressionnant.
Bien sûr. C'est ça qui est incroyable avec Pantani, c'est qu'il déposait vraiment littéralement ses adversaires, qu'il lui faisait en deux temps en général. Il faisait une première échappée.
Une première attaque.
Il laissait un petit peu les adversaires revenir. Et la deuxième estocade.
Ouais. T'as dit estocade.
Oui, c'est en dommage à Younes.
C'est ça qui était terrible. C'est qu'en fait, effectivement. Voilà.
Il en gardait sous le pied, en fait. Il t'attaque,
il te laisse revenir, il te rattaque une deuxième fois, et là, t'as plus de jambes.
Bah là,
ça te coupe les jambes. Ouais. C'est terrible. Alors, arrive le moment que Younes attend tant.
Attends.
C'est l'instant Bruno Mazur. Eh oui.
Ah,
alors, le mois
oui.
dernier, hein, on avait eu droit à un joli Michef Michou. Vous allez voir, ce mois-ci, c'est pas mal non plus.
Titre, tout de suite, nous retrouvons Étienne Lénart et ses invités en direct de l'Alpe d'Huez. Hier, Étienne, on a beaucoup parlé de la consommation de pâtes par les coureurs. Ce soir, on pourrait dire des pâtes, oui, mais des Pantani.
Voilà, merci Bruno Mazur.
Je suis sans voix.
Mais t'es outré là.
C'est beau quand même.
Non, t'en vas pas.
Laisse-moi vomir un petit peu.
J'ai un poster de Bruno Mazur.
Je me doute.
J'ai des posters.
Moi, je le trouve drôle.
Oui, c'est rigolo.
T'as
allez,
la reproduction de Bruno Mazur en cire chez toi, non?
Oui.
En 3,50 m, je crois.
Non, c'est échelle humaine.
Ah, échelle humaine, ouais. D'accord, très bien. Et alors, du coup, il finit 13ème du tour cette année-là. Il fait les championnats du monde après, il finit 3ème
en Colombie,
derrière Olano et Indurain. Mais le 18 octobre 1995, les premiers pépins commencent.
Et c'est là, je crois.
Première très grosse blessure sur le Milan-Turin.
Et voilà, justement.
C'est une collision, c'est un chauffard qui le rentre dedans.
Avec un camion, je crois.
C'est un choc, ouais.
Ouais, il rentre dans un véhicule, il se casse la jambe.
En deux endroits. Double facture ouverte, tibia péroné.
Double facture. Ça a coûté cher,
l'électricité et le gaz en même temps.
Ça a coûté cher.
Quand tu les reçois,
alors que les impôts arrivent, alors c'est pas une vie ça.
Ça fait mal.
Tout ça
dans la même semaine.
Alors, 97.
Mais c'est quand même, quand t'es cycliste, c'est chiant.
Bah, oui, c'est assez chiant. Bah, enfin, effectivement,
fin de saison,
une jambe cassée. Enfin,
déjà qu'il avait une jambe de bois, en plus l'autre est cassée.
Mais c'est sa jambe de bois qui est cassée. T'es obligé de voir.
Il allait à la paire pour faire le.
C'était du sapin.
Voir un ébéniste. Enfin, bref, c'est terrible. Et donc, il met plus d'un an à s'en remettre.
96, donc il est en rééducation. Quoi.
96, il participe à rien. 97, il revient, donc après plus d'un an de convalescence, comme on a dit.
Oui. Il change d'équipe.
C'est là qu'il intègre l'équipe Mercatone Uno. Où il devient leader.
Ouais, parce que l'équipe joue. Enfin, c'est encore les moments où on parie sur un gros leader.
Il mise sur un leader.
Et vraiment, l'équipe tournait autour de lui.
Mmh. Mmh.
Donc, tous travaillent pour lui.
Effectivement, pour le coup, quand t'arrives deuxième, troisième du Tour de France, tu peux prétendre une place de leader quand même. Donc finalement,
on peut préciser que travailler pour un leader, c'est aussi le protéger dans le peloton, essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'accident, c'est lui servir de lièvre. Enfin, c'est toute plein de techniques.
Alors, en parlant d'accident et d'animaux d'ailleurs.
Ah, ça c'est incroyable.
Voilà. Cette année-là, donc il revient en 97 et il est obligé d'abandonner le Giro alors qu'il est leader de son équipe à cause d'une chute provoquée par la traversée d'un chat.
Eh oui.
Ah ouais.
Alors, eh oui. Et d'ailleurs, vous avez beaucoup de chance, messieurs, dames, j'en ai chié, mais j'ai réussi à retrouver l'extrait de son accident, de cette chute causée par un chat. Écoutez bien.
Waouh.
J'ai peur.
Moi vouloir être un chat, me frotter contre tes je te jure, je boirai plus que du lait, je n'aime plus la vodka.
Moi vouloir être un chat,
bidou,
bidou,
bidou.
Alors,
quel salopard ce chat qui se la raconte sur tous les réseaux sociaux.
Alors, je vais vous faire une confidence. Ouais. C'était pas un extrait de.
C'était pas toi.
Ah bon.
Tu veux dire que c'est pas le chat qui profitait de ce moment de gloire?
Non, je suis désolé, c'était le groupe Povo. D'ailleurs, si vous avez, chers auditeurs, si vous avez des nouvelles de Povo, on aimerait bien l'avoir parce qu'on est très inquiets. On les voit plus. On les voit plus. Donc, il abandonne le Tour, mais il court quand même le Tour de France.
Non, il abandonne le Tour de... Oui,
le Giro, il abandonne le Giro. Et il finit quand même troisième du Tour de France, après une nouvelle victoire à l'Alpe d'Huez et à Morzine, lors de la 13e et 15e étape.
Ouais, tout à fait.
L'année suivante, on est en 98.
Grande année
pour le football français, évidemment, mais grande année pour Pantani.
Pour Pantani.
Oui, d'ailleurs, le Tour de France, à cause du football
presque
français,
envie de dire millésime.
Est décalé. Ah, oui. Faut vous dire que le Tour de France est décalé, voilà, à ce moment-là.
On va en parler. On va déjà parler un petit peu du Giro, quand même. Le Giro donc commence mi-mai. Et Pantani n'est pas favori du Giro.
C'est Zoule.
Le grand favori du Giro cette année-là, c'est Zoule. Pourquoi
Suisse.
Il est favori?
Il a gagné deux fois le Tour d'Espagne.
Il a gagné deux fois la Vuelta et il a un avantage sur Pantani. C'est que non seulement c'est un bon grimpeur, il est très bon en montagne, mais c'est aussi un excellent rouleur. Il est très très fort en contre-la-montre.
Il est plus complet.
Il est plus complet, voilà. Là où Pantani... Là où Pantani est pas très bon en contre-la-montre, en fait.
Et je suis outré parmi les...
Là, franchement, Younes devrait arrêter.
Pardon.
Et parmi les outsiders, on a Pantani et le Russe...
Pavel Tonkov,
exactement. Il est favori parce que bon, il est juste vainqueur de l'édition 96 du Giro. Dans la première partie de ce Tour d'Italie, Zoule confirme les pronostics puisqu'il gagne trois étapes, dont deux contre la montre, comme on le disait, et il est maillot rose au soir de la 16e étape. Et à l'étape 17, c'est là que Pantani va montrer c'est qui domine. À Selva di Val Gardena, Pantani attaque très loin de l'arrivée, il intègre un groupe d'échappés et il relègue Zoule à 4 minutes 37.
Ouais.
Il le défonce.
C'est incroyable, mais il est spécialiste de ça. Enfin,
il atomise en fait.
Alors il faut savoir, au soir de cette étape 17, Zoule n'est même plus dans le trio de tête, hein, au classement général. Hein. Il se fait expulser.
Le mec est au bord du rouleau, quoi.
Il est au bord du rouleau. Du coup, son principal adversaire, c'est Pavel Tonkov, qui lui, pour le coup, a réussi à limiter les dégâts. Il est qu'à 30 secondes.
Non, il en a sous la pédale, le Russe.
Il en a, ouais. Et du coup, étape 19, donc le 4 juin. C'est l'explication finale entre Tonkov et
c'est la dernière Pantani. Étape de montagne.
C'est la
ça,
dernière
du
étape
tour.
De montagne, exactement. Et dans cette dernière étape alpestre, Pantani lâche Tonkov,
alpestre,
qui subit une violente défaillance à 2 km de l'arrivée et perd près d'une minute sur Pantani. Les jeux sont faits, Pantani remporte le Giro.
Yeah.
Avec 1 minute 28 d'avance sur Tonkov. C'est pas mal. Et 6,51 sur Guerini, le troisième. Hein.
Donc, c'est même fantastique.
Ouais, il remporte plutôt très bien.
Et il remporte aussi le maillot du meilleur grimpeur par la même occasion.
Exactement.
Donc c'est plutôt pas mal.
Le mec arrive au Tour de France plutôt confiant.
Plutôt serein. Il est peut-être fatigué par contre.
Justement, on va revenir sur ce qu'a dit Olivier, c'est très intéressant.
C'est excellent.
Merci.
c'est vraiment excellent. Ouais. Remets ton pantalon, Olivier, par contre, c'est bizarre.
Je suis gêné, je vais partir.
Descends cette table.
Trop tard.
Descends cette table.
Sarah, je suis désolé, je te l'avais dit. Hein, c'est... Okay.
Alors, effectivement, c'est très compliqué d'enchaîner en général Giro et Tour de France en raison du fait qu'il y a très peu de temps en fait, entre les deux compétitions.
Il y a peu de temps, le Giro, c'est pas une promenade.
Non, le Giro c'est pas une promenade. Le Giro
pas aussi dur que le Tour de France.
Finit en général début juin, je crois.
Ouais.
C'est ça, début juin, mi-juin.
Il y a quasiment un mois de repos. Un mois et demi.
Ouais, il y a un mois de repos à peine puisque le Tour de France commence fin juin début juillet.
Je crois que
Oui. Alors pas cette année-là justement.
Non,
pas cette année-là parce qu'en raison de la Coupe du Monde,
adaptation de l'agenda.
Exactement. Champion du monde. Pardon, excusez-moi.
La 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 Vous avez deux jours devant vous, c'est ça.
Et donc le Tour de France a lieu cette année-là, commence le 11 juillet.
Oui, on peut peut-être revenir sur avant peut-être
sur le chat, tu veux que je remette pas
sur Zizou.
J'adore les chats, tu le sais très bien.
Sur Zizou.
D'ailleurs, vous connaissez l'histoire du chat qui a mal à la gorge et qui va dans une pharmacie pour demander un sirop pour ma toux. Voilà. Blague improvisée. Il y en a 6 avant Pantani qui ont réussi à faire le doublé.
Giro Tour de France.
Ah, lesquels?
Eh bien, je vais vous le dire tout de suite. Il y a Fausto Coppi, italien, en 49 et 52.
Légende.
Il y a Anquetil, que voilà. Merckx, Hino, Roche, l'irlandais, en 87. Très
légende,
belle année.
Légende.
Indurain, deux fois. Et Indurain, c'est le seul qui l'a fait 2 années de suite. 92 et 93.
Ouais. C'était quand même un champion.
Il avait aussi le record de vitesse à l'époque en piste.
Indurain, il blaguait pas.
Il rigolait pas.
Et peut-être Pantani.
Il avait de la cuisse.
Et Pantani,
c'est le dernier, je crois, à l'avoir fait.
C'est le dernier à l'avoir fait. C'est le grand objectif de Froome.
Oui. Froome qui a fait un doublé Tour de France Vuelta l'année dernière. Froome, ouais. Et effectivement, je crois que cette année, il vise le doublé Giro Tour de France. Ouais. Et évidemment, on espère tous qu'il n'y arrivera pas. Alors, les grands favoris.
Ce sale tricheur.
Il y a celui qui a gagné l'année précédente, en 97.
Exactement.
Il a 23 ans. Mais apparemment, quand il arrive au Tour de France, il est un peu à la baisse. Ah ouais. On n'y croit qu'à moitié finalement.
En fait, il fait pas une grande saison 98.
C'est ça.
Il fait un début de saison plutôt moyen, mais bon, il reste favori parce que il est quand même le tenant du titre.
Ulrich qui sera le rival d'Armstrong par la suite.
Bah surtout cette année-là, c'est surtout le rival de Pantani. En fait, un gros chassé croisé, un gros duel entre ces deux coureurs.
Il y a Virenque aussi.
Il y a quand même Virenque et
Zoule, je sais pas comment dire.
Zoule, le Suisse qui
dans l'équipe Vestina, c'est l'équipe.
Ils sont dans la même équipe. Et en fait, Zoule, lui, justement, il s'est planté un peu au Giro.
Ah, Zoule, il est dans l'équipe de Vestina.
Ouais. Il est dans l'équipe de Virenque. Ah ouais. Et donc, effectivement, Zoule est un des favoris. Mais effectivement, il est avec Richard Virenque, donc c'est un très bon coéquipier pour gagner le Tour de France. Sauf qu'il va se passer un truc un petit peu imprévu cette année-là. Je vous laisse écouter.
Madame, Monsieur, bonsoir. Ce samedi marqué par une actualité sportive extrêmement riche. Bien évidemment, la finale du Mondial dans tous les esprits. Nous y reviendrons dans un instant. Mais d'abord, cette affaire qui se déroule en marge du Tour de France et qui a suscité tout au long de la journée une certaine émotion. Un soigneur de l'équipe Festina a été arrêté à la frontière franco-belge en sa possession 400 flacons de produits dopants en tout genre. Celui qui n'est autre que le soigneur personnel de Richard Virenque a été interpellé mercredi et présenté au parquet Lille dès hier. Alexandre Carra, Nathalie Gallet.
Du lourd, du très lourd.
Ouais, ça commence à être un peu la merde hein, pour l'équipe Festina.
Villivote.
Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors racontez-nous si vous avez quelques infos.
Alors moi, je sais que le soigneur, enfin pas le soigneur, il était en voiture, Villivote,
c'est
qui est le
sorte de docteur Mengele.
Docteur. Très bien, on va voir. Ça sera ici sur le dos. Le 8 juillet, 5h40 du matin, le mec se fait arrêter à la frontière belge,
je crois.
Ce qui était a priori un contrôle de routine. On va dire classique.
Des douanes. Ouais.
Voilà, des douanes devient.
Des fiascos.
Des fiascos retentissants.
Une affaire d'État. Voilà,
c'est-à-dire que le mec en a partout, même dans les pneus. Il a partout des produits.
Et puis il a tout, quoi. EPO, en fait, hormones de croissance, testostérone, c'est génial.
Très vite, on fait le lien avec sa profession, le fait qu'il était très proche de Viren, qui est très proche de l'équipe.
Il travaillait pour l'équipe Festina, effectivement. Puis c'est effectivement, comme tu dis, ça, il n'avait pas de l'homéopathie.
C'était pas du doliprane et de l'aspirine.
C'était pas des feuilles de thé, quoi.
Exactement. Alors, c'est marrant, ça en dit long quand même sur le contrôle antidopage, parce qu'on est incapable de déceler du dopage quand on fait des prises de sang. Oui. Le seul moyen qu'on a de déceler du dopage, c'est quand on prend en flagrant délit, quand on tombe sur les substances, quoi.
Et d'ailleurs, lui, Willy Watt, il va assez vite avouer un dopage organisé et médicalisé au sein de l'équipe Festina.
Non, mais ce qui était incroyable.
Alors, il passe aux aveux rapidement, en fait.
Hein. Assez rapidement, il dit c'est tout le monde.
Ouais, il est pas torturé, en fait, pour se couvrir et pour éviter, certainement, en fait, de prendre pour tout le monde.
Il balance
tout le monde.
Mais d'ailleurs, ce qui a été très long aussi, et ce qui fait que l'exclusion, traîne, c'est qu'il n'y avait pas vraiment concrètement de preuves. Et donc, on les a exclus non pas pour dopage, mais pour manquement à l'éthique.
Ouais. C'est après que le médecin de l'équipe aussi avoue. Parce que il y a le soigneur qui avoue d'abord, ensuite tout le monde est interrogé, et le médecin avoue aussi. Et c'est suite à ça qu'effectivement, ils sont tous virés pour manquement éthique.
Et c'était la première réaction de Virenque quand il apprend réaction, c'est comment je vais faire pour mes produits.
C'était ancré
dans chaque.
Oui, c'est ça. C'est une organisation.
Et d'ailleurs, les autres coureurs des autres équipes vont vachement soutenir et s'opposer à cette décision. Moi, j'ai lu qu'il y avait une étape où ils vont mettre tous pieds à terre pour protester justement contre les méthodes de la police. Et il y a d'autres équipes qui décident d'abandonner le tour cette année-là.
Il y a la réunion dans l'arrière-salle de chez Gilou. Le petit café.
Alors, on va pas trop s'éterniser sur l'affaire Festina. J'annonce déjà, je pense qu'on fera un épisode de PO sur, pour le coup, on va encore pas bien porter notre nom, sur l'affaire Festina. Sportivement parlant, il y a une conséquence à ça, c'est que l'équipe Festina est exclue.
Donc il y a des
donc
concurrents en moins.
Et Virenc sont exclus. Donc ça fait des concurrents en moins.
Aussi.
Ils sont exclus au soir de la sixième étape seulement. Hein, donc
ouais,
quand même...
ouais.
Exactement. Alors, étape 7, c'est un contre-la-montre que gagne Jan Ullrich, qui confirme son statut de leader. Pantani essaie de limiter la casse, mais il perd quand même 4 minutes 21 sur ce contre-la-montre.
Il est que 11e au début du tour, donc c'est pas
Pantani,
génial.
C'est pas ouf. Pantani n'a jamais régné sur les contre-la-montre.
Ah bah non, jamais. C'est vraiment un pur grimpeur, encore une fois. On le dit. Ullrich prend le maillot jaune au terme de cette 7e étape. Mmh. Étape 10, étape de montagne. On est dans les Pyrénées. Pau-Luchon.
Pau-Luchon. Tu t'es trompé, ça.
C'est le poisson dans la petite sirène.
Pantani montre qu'il a encore la pêche après son tour d'Italie. Et dans le col de Persourde, l'Italien s'échappe du groupe Ullrich pour finalement terminer deuxième de l'étape. Derrière un autre Italien, Rodolfo Massi, et il reprend 23 secondes à Jan Ullrich. C'est pas beaucoup, quoi, au final, parce qu'il avait quand même perdu plus de 4 minutes.
Ouais.
Ullrich est toujours maillot jaune. Il est effectivement, comme tu dis, seulement 11e à ce moment-là du classement général, à 4 minutes et 41 secondes du
Ce qui est pas mal.
Mais tout va bientôt changer.
Tout va bientôt changer, évidemment. Ça va changer à l'étape 11, l'étape suivante en fait, qui
le
part de Luchon
de Bayle.
Pour finir au plateau de Bayle. Effectivement.
Plateau de Bayle, plateau de Bayle.
De Bayle. Bayle ou Bayle, je sais pas trop comment on dit.
Ouais, à vérifier. À vérifier,
j'ai pas d'expertise là-dessus.
C'est la deuxième étape pyrénéenne. Il y a un fait de course dans cette étape. Oui, Ullrich joue de malchance puisqu'il crève à 17 km de l'arrivée, alors que le peloton est en chasse des échappés, donc le peloton roule très vite. Lui, il crève donc vraiment au pire moment.
Il perd un pneu, ouais.
Il a pas de cric. Du coup, il revient en monocycle. Ce qui est compliqué en montagne, c'est pas évident. Et au prix d'un effort immense, Ullrich parvient à rejoindre le groupe. Il est cramé et c'est là le petit salaud que Pantani
décide d'attaquer.
Écoutez ça.
Et ces voitures là-bas qui veulent peut-être dire que Meyer n'est pas trop. Pantani, c'est fait. C'est l'attaque qu'on attendait, intervient maintenant. Pantani a attaqué seulement maintenant, si on peut dire. Jalabert tente de réagir là-bas derrière, au fond de votre écran. Ullrich en personne qui vient relayer Jalabert pour revenir sur Pantani. Ullrich qui revient sur Pantani après les efforts. Ullrich est là aussi avec les efforts qu'il vient de consentir après sa crevaison. Ullrich démontre une grande, grande condition ici. Mais Jalabert semble bien placé aussi. Jalabert dans la route d'Ullrich, ils savent qu'il faut revenir au train, qu'il ne faut pas faire trop d'à-coups face à Pantani. Pantani capable de gicler une deuxième fois et de porter une deuxième accélération. Ce qu'il fait exactement maintenant, voilà, c'est une attaque à double détente pour Pantani qui revient sur Beltrane. Pantani maintenant qui va se lancer à la poursuite de Meyer, le premier attaquant du jour, le grand attaquant du jour. Pantani est parti dans un grand numéro. Ullrich sait qu'il ne faut pas trop faire des à-coups pour revenir sur lui, mais revenir, tenter en tout cas de le faire au train. Pour l'instant, Jalabert nous fait...
La fameuse attaque à double détente,
double
c'est ce que disait Olivier,
ouais,
Olivier tout à l'heure. Ouais, c'est incroyable.
Les commentaires en instantané, alors, en fait, ce sont...
Oui, c'est ça. Alors, Jan Ullrich, assez héroïque quand même, parce qu'à la première attaque, il va quand même essayer de suivre Pantani. Hein. Alors qu'il vient de se taper toute la remontée après sa crevaison.
Il a l'orgueil qui le pousse. Ouais.
L'orgueil, mais je pense qu'il donne tout sur la première attaque. Et après, à partir du moment où il revient sur Pantani, que Pantani rattaque une deuxième fois,
c'est
impossible. Alors, effectivement, il reste après, 12 km à courir. Ouais. Oui, qu'est-ce que tu voulais dire ?
Non, j'allais faire une blague sur il se garde le meilleur pour la fin. Mais
Meyer qui n'est pas Meyer, parce qu'effectivement, il ne gagne, gagne pas l'étape. il rattrape d'ailleurs Meyer à 5,8 km de l'arrivée, Pantani, et il remporte l'étape en solitaire avec 1:33 d'avance sur Ullrich, ce qui est pas tant que ça en fait. Ullrich s'en sort plutôt pas mal.
C'est surtout que ça ne suffit pas, je crois.
Non, ça suffit pas parce que Ullrich...
il reste quatrième au général.
Voilà, Ullrich conserve le maillot jaune
avec 3 minutes d'avance. Quand même.
Voilà, il a 3 minutes d'avance. Donc bon, il passe quand même de la 11e à la 4e place, ce qui est pas mal.
C'est pas mal, c'est bien.
Et il a le record de montée. Pareil comme l'Alpe d'Huez d'ailleurs, de montée du plateau de Bayle, qui fait en 43 minutes et 30 secondes.
D'accord.
Quel record ? Alors après, maintenant le plateau de Bayle, on a rajouté quelques mètres. Au PSG, ah oui, on a rajouté 30 mètres quand même.
Mais, du coup, ça annule son record. Hein,
c'est compliqué, résultat.
Bah, de toute façon, en fait, les records des années 90 en cyclisme, je pense qu'ils ne seront jamais battus parce que c'était tellement l'âge d'or de l'EPO, pour le coup. Et à mon avis, les mecs, ils devaient être quand même blindés.
Oui, c'est qui était le meilleur dopé, quoi.
Le 28 juillet 98, étape 15 entre Grenoble et les Deux Alpes. Haute montagne, une fois de plus, avec. Là, on a quand même des cols assez hardcore. On a la Croix de Fer, qui est un col classé hors catégorie, le Télégraphe. Que des cols mythiques en fait. Et le Galibier.
Ah, le Galibier.
Avant d'arriver,
Galibier.
Avant d'arriver vers les Deux Alpes. Quel temps il fait ce jour-là?
C'est la fin du monde.
C'est terrible.
C'est l'apocalypse.
L'apocalypse. L'enfer sur la Terre.
T'as l'impression que tout le monde est mort. J'ai cru qu'on allait croiser Sauron. Hein.
Alors, il y a un mec qui a eu quand même l'idée de mettre toutes les espèces d'animaux dans un grand navire ce jour-là.
Il a été prudent.
Oui, c'est vrai.
Il a même mis les cafards.
Alors, on a effectivement droit à une pluie continue, brouillard épais à couper au couteau.
De toute façon, c'est ça, parce qu'il n'y a plus de saison.
Et ça, c'est le réchauffement climatique. Hein.
Ah ouais. Oh, bah, Alain Géopétri, il l'avait dit la veille à la météo.
Bah, oui, bien sûr, c'était le Nostradamus de la météo. Dans le Galibier, Marco Pantani attaque à 5,5 km du sommet.
Il prend tous les risques.
Voilà, il passe en tête au sommet avec 2,40 d'avance sur le groupe Maillot Jaune. Et dans la descente, Ulrich réduit un petit peu l'écart. Voilà. Il réduit dans un premier temps l'écart de 15 à 25 km de l'arrivée, puis en repère de 35 à 20 km de l'arrivée.
Tu viens de vomir là, c'est ça.
J'ai râlé.
3,25 à 10 km.
À 10 km.
Moi aussi j'ai des chiffres, monsieur. Moi aussi je les ai.
Et effectivement, dans le bas de la descente, qu'est-ce qui se passe?
Il crève.
Il crève encore. Là, il a vraiment pas de bol, le mec.
Doublé de malchance.
Il a vraiment pas de bol. Et je vous invite à écouter ce qui se passe par la suite.
On se retrouve là avec Yann Ulrich, Jean-René.
Oui Patrick, je vous décris, je suis derrière Marco Pantani. Marco Pantani qui est en train d'accélérer. Rodolfo Massi a été décroché. Il ne reste plus que trois hommes. Marco Pantani dans sa roue. Christophe Frenero en troisième position. Fernando Escartine. Et voilà Marco Pantani qui vient de profiter de l'intérieur d'un virage à droite pour placer un nouveau démarrage. Christophe Frenero cette fois décroche. Un seul homme se lance à la poursuite de Marco Pantani, il s'agit de Escartine qui aura du mal à rentrer. Nous passons à l'instant devant le panneau, sommet des Deux Alpes, 8 km.
Pantani relance, on le voit maintenant, Jean-René, merci. Jean-René avec Pantani qui se retourne pour voir si Escartine parvient à le suivre. Et maintenant, pour Pantani, bien deux objectifs, la victoire d'étape bien sûr, mais celle-ci ne devrait pas pouvoir lui échapper. Voilà une étape qui nous rappelle ce fameux épisode de Luis Ocaña. On en a beaucoup parlé au début de cette retransmission. 11h ce matin, Luis Ocaña qui avait gagné avec 8 minutes d'avance sur Eddy Merckx. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec cette attaque de Pantani. Et cette image là qui disparaît. Voilà Pantani à nouveau, seul en tête. Et Pantani maintenant qui lutte bien sûr contre le chronomètre. Car pour Pantani, il s'agit bien sûr d'établir l'écart le plus important possible. C'est maintenant que se joue le Tour de France dans un scénario absolument idéal pour le suspense.
Encore grand, immense numéro de Pantani qui profite, qui est très tactique, hein, qui profite quand même finalement de crevaison d'Ulrich, de la malchance. Enfin bon, une crevaison, c'est pas non plus. Enfin, je veux dire, tu changes de vélo assez rapidement en général au Tour de France.
Et d'ailleurs,
c'est pas éliminatoire. Hein, c'est
non,
sûr.
Non, non.
C'est rigolo dans l'équipe d'Ulrich, j'ai l'impression qu'il y avait un peu des petites tensions parce qu'apparemment, à la fin, Ulrich va dire qu'il avait. Ah, j'ai sans doute mis beaucoup trop mes coéquipiers à contribution, c'est ça aussi qui nous a perdu. Et l'un de ses coéquipiers lui a dit, je pense pas que c'était l'équipe qui n'était pas à la hauteur, mais Ulrich lui-même. Bah voilà, bah, quand c'est comme ça dans une équipe, on perd.
Et ben voilà, exactement.
Et voilà.
À solidarité, hein. C'est
alors qu'on l'a vu avec l'équipe de France 98, hein.
Ouais.
C'était tout copain, hein.
Petit exactement, bonhomme. Petit bonhomme.
Ah,
et
petit bonhomme.
C'est ce qui a permis, effectivement, à Guy Varge de marquer autant de buts.
Une avalanche. On alors, ça une avalanche.
À 8 km du sommet.
Kilomètres.
8 km, oui,
c'est genre
kilomètres.
Le kili, c'est comment
C'est les kilomètres, c'est dans le Baby Giro, tu sais.
C'est
des petits kilomètres. Il pointe à 4,25 de Pantani, à 5 km, à 5,50.
C'est ça, ouais.
Et pour finir à 8,57 sur la ligne d'arrivée. 8,57 il lui met quoi.
Ah, moi j'ai encore plus, moi j'ai 9 minutes. J'ai
un... Ah, bon, on n'a pas les mêmes chiffres.
On n'a pas les mêmes chronos.
9 alors. Minutes, 8,57, 9 minutes, on va.
Enfin en tout cas, il gagne plus de 30 secondes par kilomètre.
Donc, ça c'est
incroyable.
Juste
phénoménal.
Ça, c'est incroyable.
C'est phénoménal.
Il lui roule dessus.
Et il lui roule dessus littéralement.
C'est le cas de
tout ce qui a été Pantani, c'est-à-dire sa faculté à être seul et à finir très très bien.
Très solitaire. Alors, mais c'est ça qui est magnifique. Effectivement, en tant que sportif, il était solitaire totalement dans la montagne, dans les étapes, il a été tout seul. Et on verra.
Qui va mourir en solitaire.
Qui va mourir en solitaire et qui va passer une partie de sa vie en solitaire. Pantani, qu'est-ce qu'il gagne ce jour-là? Enfin, il prend le maillot jaune, quoi.
Ah oui. Bah, oui,
il prend le maillot jaune.
Place de leader, il jeune, ouais. Il prend il évidemment dans l'esprit déjà le Tour de France. De
façon, il le gardera derrière, quoi.
Il le gardera parce qu'il a foutu Ulrich à 9 minutes
et
au classement général.
De façon très théâtrale dans un théâtre de déluge avec tous les éléments qui étaient réunis pour faire du spectacle. Ouais. Et lui arrive et s'impose à ce moment-là, donc forcément il marque les esprits.
Mais c'est ça aussi Pantani, une espèce de showman comme ça dans ce cyclisme un petit peu.
Il avait une étoile
qui était c'était avec Indurain qui venait gagner 5 fois. Il y avait quelque chose de c'est un personnage aussi dans sa façon de gagner.
Ouais.
Ah oui, c'est magnifique.
Il gagne accessoirement après le Tour de France, il gagne le vélo d'or, oui. Et le Mandrisio d'or, ça j'ai noté ça.
D'accord, voilà. Très bien. Voilà. Oui, parce qu'en fait, spoiler alerte, il va gagner le Tour de France. En fait, il est assez bon dans le dernier contre-la-montre. Il finit 3e. Donc là, on ne l'attendait pas trop. Ce qui est bien, du coup, il limite la casse. Je pense que c'est pas Ulrich d'ailleurs
qui remporte,
il me semble. Mais bon.
Façon.
Voilà, donc 98. Magnifique année pour Pantani, c'est sa plus belle année.
L'apogée, ouais. L'apogée.
Et derrière, ça ira un peu moins bien.
Ça se passe un peu moins bien, mais on va en parler après un petit intermède musical. Un morceau de Gigi Cole qui date de 76, qui est devenu célèbre grâce à une reprise d'Eric Clapton. Yes. On verra que la cocaïne, Pantani, il s'en foutait plein de pif.
Ah, pauvre Pantani.
Et oui. On va parler de la décadence du pirate et c'est un peu de sa descente aux enfers.
Ah oui, hein, on vient d'aborder l'apogée, ouais. En fait. Hein.
Mais en fait, ça va assez vite. Hein, enfin.
Ça va doublé, très très vite.
Il fait un truc incroyable qui est rare, c'est donc le doublé Giro, ouais. Tour de France.
Ouais.
Et puis après.
Après, c'est la chute. Ça commence dès l'année suivante, en 99, avec le Giro.
Ouais, il démarre la saison plutôt bien, pourtant.
Il démarre très très bien la saison. Il est ultra favori du Giro 99.
Il remporte 4 étapes.
Médiatisé.
Voilà. Mmh. Il remporte 4 étapes. Il remporte Grand Sasso, Europa, Alpe di Pampeago et le fameux Madonna di Campiglio.
Très fameux.
Que des étapes, ouais, que des étapes en altitude. À Europa, juste pour la petite anecdote, il parvient à remonter 49 coureurs sur 12 km d'ascension. Vous
est-ce que tu peux le faire encore plus? Tu peux crier encore plus, s'il te plaît?
Dans la...
Il parvient dramatique. À remonter 49 coureurs sur 12 km d'ascension. Non, mais c'est terrible.
T'es
c'est
un acteur dans l'âme, Michael.
Je sais.
Ouais, c'est sûr, quasiment. Ouais, ouais.
C'est incroyable.
Oui.
Et donc, à Madonna di Campiglio, Pantani est leader du général.
Là, rien ouais. ne laisse présager.
Alors,
le drame.
Madonna di Campiglio, c'est une des dernières étapes. Il a 5,38 d'avance sur le deuxième. Salvo-Deli, et 6-12 sur Gauthier, qui est troisième.
Globalement, il va le gagner, ce tour.
Il reste que deux étapes. En plus, c'est deux étapes de plat, je crois. Il y a peut-être un contre-la-montre.
Il l'a dans la poche, quasiment.
Voilà, il l'a dans la poche, sauf qu'il va se passer un truc...
pas cool.
Inattendu.
Un peu inattendu, effectivement. Qu'est-ce qui se passe?
Un contrôle antidopage.
Oui.
La police qui arrive.
Et alors, son taux d'hématocrite va se révéler trop élevé.
Voilà, alors c'est quoi l'hématocrite? Je crois que, alors, comme c'est un sujet un petit peu de merde, je l'ai confié à Olivier. Qu'est-ce que ça raconte, nous, ce que c'est avec l'hématocrite, Olivier?
J'ai adoré ce sujet, je suis allé voir Science et Vie Junior, je t'ai abonné.
Attention, on en a pour 10 minutes. Hein.
Ah oui, alors attends.
Vous pouvez accélérer si
on
vous
voulez. On en profite pour parler de notre projet Hématocrite Cast.
Oui, qui va arriver très
prochainement.
Donc on a fait appel à ma prof d'SVT, Madame Bayeul, qui sera là.
Elle est
très gentille,
elle
manquait un œil, mais je sais pas ce qu'elle devient.
Et elle avait de la moustache, non?
Elle avait de la moustache et surtout les cheveux gris. Le taux des macrocytes, c'est en gros le taux de globules rouges qu'on a dans le sang.
Ouais.
Voilà, faut savoir qu'entre un homme normalement constitué, c'est entre 41 et 50%. Plus on a, on va dire,
des
globules rouges, plus on est en forme. Enfin, ouais. Faut pas en avoir trop non plus, mais faut en avoir pas. Si on en a pas assez, on peut être victime d'anémie. Donc,
oui.
De perte d'énergie, de malaise.
Oui, c'est pas la grande forme quand on en a pas assez.
C'est pas terrible, terrible.
Oui, c'est pas la
donc voilà,
forme.
Et chez les sportifs, il est que sportif considère que plus ce taux va être élevé, plus on va pouvoir oxygéner le sang, les poumons
et les muscles.
Les muscles.
Exactement,
forcément. On va gagner en énergie et du coup, ça vaut le coup de pouvoir surélever ce taux d'hématocrite.
C'est comme
et comment,
vie,
comment on peut surélever, comment
oui,
on peut surélever ce taux d'hématocrite, Olivier?
Eh bien, on peut surélever l'hormone qui est sécrétée principalement par les reins et qui sert à stimuler
avec un
la moelle osseuse.
Un séjour
si
à la montagne.
La moelle osseuse oui. est stimulée et augmentée, on augmente la production de globules rouges.
Mmh. Et
donc ça marche par un produit qui s'appelle l'épatant podcast Omnisport. le PO.
Attends, je vous ai le nom exact quelque part, mais enfin, je sais
il
pas.
Il a trop de petits papiers, c'est trop mignon.
Les pioratocrites. Le PO quoi,
ouais, le PO,
qui sert à augmenter ce taux.
Voilà, alors Pantani, il a un taux d'hématocrite de 52%. La limite, on le rappelle que la limite autorisée est 50%. Voilà.
50%.
Sinon, t'es soupçonné d'avoir pris le PO. Donc, il est suspendu. Alors en fait, il est suspendu 15 jours, c'est le règle.
Oui.
Et du coup, il est exclu du Giro.
Il est exclu puisqu'il peut pas le finir.
Il peut pas finir le Giro. Alors évidemment, il nie en bloc. Ses supporters
le soutiennent. Ses adversaires.
Alors, ses supporters crient à l'époque au complot.
Ouais.
Ses adversaires le soutiennent.
Il y a même son dauphin qui va refuser de porter le maillot rose.
Son dauphin.
Oui, à l'aquarium.
Oui.
Aqualand.
Le deuxième du tour.
Ça m'a envie de faire un flipper.
Voilà. Il va refuser de porter le maillot rose, qui est le maillot jaune du Giro.
Oui, exactement.
En disant non, c'est pas moi, c'est Pantani qui devrait être là.
Alors, le 24 janvier 2001, il est mis en examen pour fraude sportive suite à cette affaire de dopage du Giro. 99.
Oui,
par le tribunal de Trente, il risquait quand même 6 mois de prison et 500 euros d'amende.
Mais il est acquitté.
Il est acquitté, ouais.
Parce qu'en fait,
il
est acquitté surtout pour un peu vice de forme, vice de procédure. En fait, le juge va dire que le dopage n'était pas considéré comme un crime aux yeux de la loi de l'époque.
Exactement, de l'époque, ouais. Tout à fait. Alors, en mars 2016,
ça c'est incroyable.
Coup de théâtre, une enquête est rouverte à propos de cette affaire de dopage et il a annoncé que la Camorra, la mafia napolitaine, aurait commandité ce contrôle positif. Qu'est-ce qui se passe exactement?
C'est une histoire... J'ai pas très bien compris, mais c'est une histoire de paris truqué,
voilà,
c'est
en gros,
ça
en gros, il y a une biographie de ce monsieur qui s'appelle Renato Valanzascar.
Valanzascar, exactement.
Qui est un ancien mafieux qui a écrit un bouquin. Comme
repenti.
Alors,
comme François Hollande.
Un mafieux de la Comasina, qui est la mafia de Côme. Figurez-vous. Non, c'est une petite.
Calme-toi.
Je m'y connais en mafia.
Oui, oui, c'est vrai. Et puis com aussi. Tu te connais en com.
Ah oui, je m'y connais beaucoup.
J'adore.
En com.
J'adore.
Une thèse en mafia.
Et qui a avoué plus tard que il a eu des appels, plusieurs appels, dont un jeune garçon qui lui disait que il fallait miser absolument beaucoup d'argent sur Gotti, le futur vainqueur d'ailleurs.
Gotti et Jalabert. Hein.
Et Jalabert et surtout Gotti, en disant que de toute façon Pantani
n'allait pas
finir. Le Giro 99.
Alors Valanzasca, qui est pas complètement fou en fait, ne fait pas ce que lui dit le jeune homme. Il parie pas en disant mais attendez, Pantani il a 5 minutes d'avance, il reste 2 étapes. Et effectivement Pantani ne gagne pas le Tour. Et dans sa prison, donc très récemment en 2016, il y a un camoriste du nom de Rosario Tolomelli, surnommé Ozio,
l'oncle, qui
confie aux enquêteurs. Qu'il avait effectivement programmé ça pour faire baisser la cote, pour placer de l'argent sur les outsiders dont la cote était hyper élevée et gagner énormément d'argent. Je sais plus combien il y a eu de millions de misés sur ces paris sportifs. C'était colossal.
Ouais, la Pulp Fiction quoi.
Ouais exactement. Ouais. Alors et d'ailleurs lors du procès de Trente, durant lequel Pantani sera relaxé, il sera avéré qu'il y aura des vices de procédure. Par exemple, on n'a pas laissé à Pantani le choix de l'éprouvette. Alors que les coureurs doivent en fait choisir leur éprouvette. Et en fait, elle a été placée. Le mec qui a procédé au contrôle, il l'a foutu dans sa poche, alors qu'il y a une valise qui est prévue à cet effet. Ah oui. Donc il y a plein de trucs un peu bizarres.
Non, mais même l'étalonnage de la machine, on ne sait pas qui l'a fait pour la machine qui sert à. Je ne sais pas trop comment ça marche. Mais...
Les enjeux sont colossaux il y a eu pas mal de choses laissées au hasard.
Il n'y a pas eu de garrot et maro.
T'es médecin en fait, Olivier.
Oui, d'accord.
Ça me rassure.
Ça tombe bien,
j'ai mal de gorge, pince au pommatou.
Ouh, fois deux.
Alors en fait ce contrôle, enfin cette exclusion du Giro a été vécue comme un traumatisme par Pantani.
Ouais. C'est vraiment le début de la descente aux enfers.
C'est le début de la descente aux enfers. Il y a on va en reparler, mais il y a un journaliste à l'équipe qui s'appelle Philippe Brunel qui a écrit bouquin sur Pantani.
Jaffar.
Ah oui, Jaffar, oui. Voilà, Jaffar Disneyland. Ah, exactement, oui. Qui a écrit un bouquin sur Pantani qui est sorti en 2007. Et écoutez ce que dit Philippe Brunel par rapport à Pantani et son exclusion du Giro à l'époque.
Marco Pantani avait un immense complexe physique, il se sentait laid quand il était jeune et il avait trouvé à travers le cyclisme une identité, je pense qu'il s'était structuré à travers son métier, il avait même trouvé son style, la réussite l'avait rendu beau, c'était un personnage qui ressemblait à aucun autre et quand ils l'ont exclu du Tour d'Italie à Amadei Campiglio en 1999 après un contrôle sanguin, il s'est senti un peu dépossédé de son rôle, destitué, humilié et il est rentré dans une forme d'autodestruction et je pense que la cocaïne a été un des ingrédients de cette autodestruction.
Et d'ailleurs, je pense que c'est dans la même émission, il dit vraiment que Pantani en fait avait trouvé, s'était construit son identité à travers le vélo et à travers son personnage du pirate, et que cette exclusion en fait, ça allait au-delà du, c'était pas seulement le sportif, c'est l'homme que ça a détruit.
Une exclusion sociale derrière.
C'est très dur. Ouais.
Bah en fait, il avait réussi à retrouver une image, on va dire, positive et auprès du public et aussi, enfin Philippe Brunel en parle aussi un peu de la gente féminine en fait et du coup c'était vraiment vécu comme un traumatisme. Il parle d'une anecdote. Il parlait d'une anecdote qui m'a déchiré. Ouais. En fait, Pantani, dans les semaines qui vont suivre le Giro, il décide de courir 2 étapes en solitaire comme à l'entraînement de la longueur des 2 étapes du Giro pour se dire psychologiquement qu'il a fini ce Giro entre guillemets.
C'est beau.
Qu'il a gagné. Et en fait, il décide de raccrocher le vélo.
Ouais, Il dit pour moi le vélo c'est fini.
Pendant des mois, il n'en fait plus. Et un jour, il décide de reprendre son vélo, de reprendre l'entraînement. Et il sort de sa villa et il croise une voiture qui s'arrête à ses hauteurs. Et l'occupant de la voiture baisse la vitre et lui crie « espèce de drogué, pirate de merde
oh, ». C'est
ça,
horrible.
Ça le détruit.
C'est horrible.
Ah,
c'est trop triste.
Ah, c'est terrible. Il revient quand même à la compétition. Hein. Il n'arrête pas sa carrière sportive tout de suite.
En 2000.
Voilà, il revient en 2000.
Sur le Tour d'Italie, sauf qu'il n'est plus leader de l'équipe.
Voilà. Il n'est plus leader de l'équipe.
Il est clairement dégradé. Cette image a fait.
Oui, voilà. Ouais. Voilà. Alors, on peut parler un peu de l'inégalité face au dopage. C'est-à-dire que Pantani, lui, il l'a reçu en. Alors, on est en 99 au moment où il se fait exclure du Giro. On est un an après, à peine un an, en fait, après l'affaire Fessina.
Après
l'affaire Fessina. Ouais. Donc, l'UCI durcit sa politique. Et en fait, c'est devenu un petit peu le bouc émissaire, la tête de turc, entre guillemets,
faire
de la lutte anti-dopage.
Il fallait faire un exemple.
Et c'est Pantani qui s'est tout pris.
Mais d'ailleurs, dans
ça, c'était là où, par exemple, à Virenque, pour le coup, s'en sort plutôt bien.
Oui, c'est vrai.
Il fait une carrière post-affaire Festina, qui est quand même pas dégueulasse. Alors,
il en prend, on se rappelle des guignols à l'époque, il s'en prend quand même plein la gueule, Virenque. J'ai été dopé à l'insu de mon plein gré pour un débile.
Virenque passe pour un con, mais derrière, il se réhabilite assez facilement, même d'un point de vue du. Enfin, le regard que le public a sur Virenque, c'était un peu le bonnet. Et finalement, on l'excuse, en fait. On se dit, ok, ce mec était idiot. On l'a un peu roulé dans la farine, c'était pas vraiment de sa faute et il a subi un peu la situation.
Alors qu'il y en a d'autres qui disent qu'il était au cœur de toute la machine Festina et que.
Pantani, c'est autre chose, on peut pas lui prêter forcément le rôle de Benet et donc forcément on se dit qu'il est au manette.
Ouais, et puis Pantani a toujours ouvert sa gueule pour dire des choses et d'autres.
Ouais, et puis c'est le pirate quoi, il peut pas être un idiot quoi.
Il représente ce cycliste. Qui a toujours refusé la technologie avancée de gare, voilà, il a toujours lui tout ce qu'il voulait c'était, il se définissait comme un romantique.
Ouais, pédaler, grimper quoi.
Mais voilà, il pédalait et il arrive en plus en 2000 quand il veut revenir face à une autre forme de dopage.
Voilà, alors il revient en 2000, on va en parler, il revient en 2000 à la compétition, il gagne quand même deux étapes du Tour de France
au Mont Ventoux et à Courchevel.
Alors pour la petite anecdote, il gagne le Mont Ventoux. Alors je sais pas si vous vous souvenez, en fait, il gagne le Mont Ventoux. Alors il est un peu loin au classement général. Donc à l'époque Armstrong, il écrase le Tour de France, c'est les débuts où il commence à écraser le Tour de France.
C'est la première année où Armstrong gagne le Tour de France.
Voilà, c'est suspect.
Exactement.
Et c'est déjà suspect.
Il a beaucoup d'avance sur au classement général. Ils arrivent en duo en fait. Ils arrivent Armstrong et Pantani.
Il le laisse gagner, je crois.
Et Armstrong le laisse gagner. Et ça, Pantani le prend comme un affront.
Il a jamais digéré.
Ouais. C'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'il fait ça, Armstrong?
Pour l'humilier peut-être.
Parce que non, mais c'est une chose qui se fait quand même assez couramment dans le cyclisme. C'est un peu un échange de bons procédés, quoi.
D'accord.
C'est bon, moi j'ai le maillot jaune, je suis vainqueur du Tour de France, j'ai déjà gagné des étapes. Je te laisse gagner l'étape. Mais en fait, ce que Pantani reproche à Armstrong, c'est qu'il l'a laissé gagner en montrant bien en fait à la face du monde.
Ouais, et qu'il l'a laissé gagner. D'accord.
Armstrong déteste Pantani et il le voit comme un vrai danger. C'est-à-dire qu'en gros, on pourrait dire. Ça encore à l'époque où lui il a trouvé avec ses trucs signés antidatés donc avec son truc de sang qui n'est pas de l'OPO mais enfin sa nouvelle façon de se droguer, ils disent ok, on va pouvoir gagner contre les riches, contre tout le monde, mais à quoi ça sert s'il y a Pantani qui revient et qui fout tout en l'air, tout ce qu'on a fait pendant des années. Et d'ailleurs le 99, on parle beaucoup de la mafia, on se demande aussi si indirectement. Là, on est vraiment en prenant des pincettes.
Oui, dans la fiction. On reste
dans la fiction, mais malgré tout, c'est quand même l'état d'esprit à un moment donné, donc c'est important de le dire. Si on se demande Armstrong, indirectement, en tout cas son équipe Brunel et compagnie, n'a pas.
Dénoncé ou magouillé.
N'a pas facilité certaines choses.
Oui.
Voilà.
Oui. Ça laisse à penser ces choses-là sans véritable preuve.
Oui, pour le coup, là, on est dans un truc, on est dans la supputation complète.
Alors, 2001.
Ouais.
Giro qui commence le 6 juin.
Le Giro de fraise.
Qui commence pas le 6 juin en fait. Le Giro commence avant, mais le 6 juin, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on a appelé
le Blitz de Sanremo.
Exactement. Encore une fois, pleine lutte antidopage. Et là, par contre, on y met les moyens. Qu'est-ce qui se passe en fait ce 6 juin?
Il y a le GIGN.
C'est terrible. Ils envoient Steven Seagal quoi.
Seagal débarque.
Ouais. Ils envoient Steven Seagal.
Non, mais c'est une vraie opération. Tous les hôtels de toutes les équipes sont investis par la police.
Ah, bah, c'est une perquisition.
Et là, il y a plusieurs kilos de produits dopants qui sont trouvés, du matériel d'injection dans tous les sens. Ouais. Et dans la chambre de Pantani, on va trouver une seringue d'insuline.
Et des slips. Voilà. Alors, 215.
Ça, c'est normal. C'est y a que toi, Mickaël, qui marque avec un seul slip quand tu vas en vacances. Hein. J'ai déjà dit que c'était dégoûtant.
J'en mets pas.
Tu peux tenir combien de jours avec un slip?
Ah bah je tiens, mais j'en mets pas. Du coup, je te dis, toute ma vie. 240 carabiniers.
Toute ma vie.
240 carabiniers qui investissent en pleine nuit, hein, quand même, les hôtels. Les mecs, ils pourraient passer la journée quand même.
Non, c'est pas sympa.
Boire le café.
Et prévenir avant,
exactement,
quoi.
Exactement.
C'est mal poli.
Non, mais on n'a pas le temps de leur préparer un petit repas.
Mais oui, c'est vrai. Donc effectivement plusieurs kilos de produits dopants, dont de l'insuline.
Ouais.
Et de l'eau distillée. Vous savez à quoi ça sert l'eau distillée?
Ah bah non.
Nettoyer les chiottes.
Curiosité.
Eh ben pas du tout. À nettoyer les chiottes peut-être, je sais pas. Mais ça sert à baisser le taux hématocrite justement.
Ah. Et c'est quoi l'hématocrite?
Olivier.
Madame Bayeul, si tu m'entends.
Alors Pantani est suspendu pour 6 mois.
Ouais, ça fait mal.
Suspendu pour 6 mois, deuxième gros coup quand même. Il va traverser une période avec procès sur procès.
Voilà, c'est terrible. Oui. Il y a des appels, contre-appels.
Ah, ouais, d'ailleurs, il y a un autre procès en 2000 avant qui va commencer à être lancé sur parce qu'il date du Milan-Turin où on va l'accuser d'avoir été dopé à l'EPO à ce moment-là.
Alors que jour-là, il manque de se tuer quand même. Hein. Faut quand même le préciser.
Ouais. Et voilà, bon. Mais à chaque fois, il s'en sort sans. Enfin, en fait, il est condamné en première instance et finalement, il est acquitté. Donc, il a plein de procès, mais il est jamais, je crois, vraiment condamné. Années dans cette succession de procès.
Voilà, mais bon, ça se passe pas très très bien dans sa tête. Non. En 2003, il met fin à sa carrière sportive après avoir couru une dernière fois le Tour d'Italie. Il court pas le Tour de France parce que son équipe.
Ça, c'est terrible.
Ouais, son équipe est pas autorisée à participer au Tour de France.
Ah, c'était, c'était le centième Tour de France.
Ouais. Ouais. J'ai assisté au départ.
Ah oui, c'était où
À Montjon.
Ah oui, à Montjon.
Retour aux sources.
Oui, voilà, exactement.
Exactement.
Et là, ouais, il va commencer la longue route dans la dépression et dans la drogue.
Exactement. Alors. Putes. On n'entend plus parler de Pantani à partir de 2003 jusqu'à ce 14 février 2004. J'ai passé l'extrait déjà en début de podcast.
Joyeux Saint-Valentin.
Joyeux Saint-Valentin. Qu'est-ce qui se passe exactement?
Bah, il est retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel à Rimini, où apparemment il s'était un peu reclus depuis plusieurs jours. Seul dans cette chambre. Il est mort des suites d'un œdème cérébral et pulmonaire dans sa chambre. On va y trouver des meubles renversés, il est blessé au visage.
Ce qui surprend, en fait, c'est que bon, il est retrouvé par le concierge de l'hôtel le 14 février 2004. Avec Mengele, on va déjà avoir des problèmes.
Bravo.
Alors, le 14 février 2004, il est retrouvé en fin de journée à 20h30, mort. On y retrouve des boîtes d'antidépresseurs.
Ouais.
Des slips.
C'est normal, Mickaël.
Ouais, effectivement, ce qui saute aux yeux quand même un petit peu, c'est que sa chambre est
c'est le bordel.
C'est le bordel. Il a rien rangé. Aucun respect, le mec.
Mais c'est un peu retourné.
Aucun respect, le mec.
Il est retrouvé mort dans son sang.
Il est retrouvé mort. Oui, il est retrouvé mort dans son sang.
Allongé sur la tête. Avec du sang.
Et l'enquête va conclure que c'était une surdose de cocaïne et de produits antidépresseurs.
Voilà. Alors.
Et d'ailleurs, ça va être pour l'instant, assez vite accepté par les médias, par l'opinion publique.
Ça va être une thèse qui est véhiculée rapidement.
Oui. Alors, l'instruction est bouclée rapidement, hein, effectivement. Ouais. Alors, c'est une thèse qui est acceptée par tout le monde, les médias, effectivement. Les médias font pas d'enquête. Bizarrement, les médias en Italie, ils s'en foutent.
On plie l'affaire assez rapidement.
Les enquêteurs ne font pas d'enquête non plus. Donc.
Les enquêteurs ne font pas d'enquête.
Et puis on sait qu'il était dépressif, qu'il allait mal, et donc ça surprend personne qu'il ait sniffé plein de coke, qu'il s'est pris d'une overdose.
Alors, le seul journaliste qui a fait une enquête, pour le coup, il est français, c'est Philippe Brunel, on en a parlé, qui fait Jafar le dimanche à Disneyland.
Allez-y, vous irez voir des
photos. On dit ça, regardez les photos de Philippe Brunel sur Internet.
Qu'on salue d'ailleurs.
Qu'on salue évidemment.
Et qu'on remercie pour son livre.
Exactement, qui est un excellent ouvrage que j'ai lu d'ailleurs. Je vais pouvoir vous parler d'un certain nombre de détails qui sont assez croustillants.
T'as utilisé le terme croustillant, je t'arrête tout de suite.
Oui, croustillant, oui. Oui. Maintenant, tu m'arrêtes. Ah bon, j'arrête alors. Ouais.
Alors, allez, bonne soirée. Au mois prochain.
Moi, j'ai une première petite question. Enfin, c'est la première question que je me pose en fait quand je vois ce truc-là. C'est putain, qu'est-ce qu'il foutait dans cet hôtel de merde là, Rimini?
C'est vrai qu'il a l'air pas terrible, cet hôtel.
Alors, 30 km de chez lui.
Alors, voilà, c'est incroyable parce que
sur la mer Adriatique.
L'hôtel se situe à 30 bornes de chez lui.
Ouais.
Il y arrive le 9 février 2004 par taxi depuis Milan.
Alors 600 balles de taxi, je crois.
680 euros de taxi.
Ouais. À cette époque-là, il est déjà très seul. Ils disent qu'il s'est complètement renfermé. Et alors, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'en fait, tu as dû l'entendre dans une émission où on entend Jalabert qui parle.
En effet.
Qui parle de Pantani et qui dit en fait ça a toujours été quelqu'un de solitaire.
Même dans le peloton,
il parlait pas aux autres, il faisait passer les messages, il faisait dire à son coéquipier, dis à Jalabert que j'ai un peu peur de lui, etc.
Que je veux sortir avec lui.
Il lui faisait des petits mots, etc. Et en fait, donc dans la dépression, si déjà t'es solitaire quand tu vas bien, si tu veux, quand t'es déprimé, c'est compliqué de se faire des amis.
Il était effectivement connu pour être un peu autiste.
Non, mais il passe depuis la fin de 2003. Il passe ses journées en enfer.
Ah oui, c'est clair. Alors,
apparemment, il a une consommation de cocaïne incroyable.
Ah ouais, il consomme énormément de cocaïne. Alors, voilà.
On l'appelle l'aspirateur.
Je vais juste vous parler un petit peu des quelques jours qui précèdent un petit peu le drame. En fait, il arrive à Rimini en début d'après-midi le 9 février. Redis cette blague parce que du coup j'ai pas suivi.
Non, il a rien dit.
Les auditeurs l'entendront pas s'ils ont envie.
C'était charmant.
Je vais être obligé de réécouter le podcast.
C'était charmant comme
blague. Pour cette blague.
L'aspirateur, je te laisse.
Oh merde.
Pensez.
Je couperai au montage évidemment.
Ça me rappelle quand j'appelle maman.
Oh là là, c'est pire en pire. Non mais je vais arrêter. Faut que j'arrête.
Stop.
Alors, il passe 10 jours à Milan. Il retire 12 000 balles en liquide. Alors voilà, Pantani a quand même pas mal de pognon.
Oui.
Ouais, bon,
il a pas mal de fric. Ce qui pose encore plus la question de qu'est-ce qu'il foutait dans cet hôtel qui est un peu miteux.
Un peu de merde, ouais.
Il y a, alors, à midi, il y a des hôtels quand même beaucoup plus sympas.
Comme s'il avait envie de se cacher, tu veux dire.
Exactement.
Alors, Rimini, surtout, c'est plutôt une station balnéaire, un truc bien fréquenté, quoi.
Un mot sur Rimini. Bah,
c'est une ville qui est spéciale pour les crickets. Ça, c'est Rimini Cricket.
Mais je crois que c'est pas une.
On l'a perdu.
Ouais, moi, c'est bon, je raccroche. Je
non, mais je crois que Rimini, c'est pas une ville très sympathique. Non, c'est une ville balnéaire, en fait, mais c'est un peu pute drogue.
Exactement.
Etc.
Alors, Rimini, voilà, on va en dire exactement. C'est une ville qui est
on
connue
danse un peu.
Parce que c'est une ville balnéaire et surtout connue
casino.
Pour sa vie nocturne.
Ouais.
Il y a beaucoup de drogues qui tournent, énormément, mais les autorités ferment un peu les yeux sur le phénomène parce que la drogue ramène du monde dans les boîtes, qui ramène du monde dans les hôtels, qui ramène du monde dans les restaurants. C'est une véritable économie, en fait.
Donc, il y a un écosystème qui se crée à travers le crime, quoi.
À la question...
C'est-à-dire que les autorités pourraient fermer les yeux sur ce genre de choses ?
Je sais pas, mais t'as raison. La mafia est puissante en Italie, je sais pas.
Non, ça, c'est des mensonges.
Ah oui, c'est ce que je me disais. Et donc, du coup, on comprend pourquoi Pantani il va à Rimini, effectivement, c'est parce qu'il y a de la coke facile, enfin, on en trouve facilement, et en fait, ce jour-là, il arrive le 9 février, il va chez son dealer. Son dealer n'est pas là. En fait, c'est un ami de son dealer qui lui répond et qui lui dit qu'il est parti à Naples, mais qu'il reviendra dans la journée, et Pantani va du coup se poser, comme on peut dire, dans l'hôtel juste en face chez son dealer, pardon.
Tranquille.
Qui est la résidence Le Rose. Voilà pourquoi Pantani se retrouve dans cet hôtel. Il loue une seule nuit. Il loue qu'une nuit. D'après les reconstitutions de l'enquête, il se fait livrer de la cocaïne par, alors pas par son dealer qui s'appelle Fabio Miradosa, qui est à Naples, mais en fait par son pote. Et d'après ce qu'on dit, en fait, il reprend une nuit chaque jour.
D'accord.
Donc, a priori, à l'origine, il n'avait pas prévu de rester à Rimini.
Mais il se plaît finalement dans ce petit hôtel.
Voilà, il trouve ça sympa de se défoncer la gueule tout seul.
Pas mal ici. Voilà, je vais y rester un peu plus longtemps.
Il trouve ça sympa de se défoncer la gueule.
Donc finalement, il est en attente de ce rendez-vous, c'est pour ça qu'il renouvelle ses nuitées.
Voilà, après, il a de la coke, donc il peut passer du temps tranquillement. D'après les témoins, d'après le personnel de l'hôtel, apparemment, il n'est pas ressorti de son hôtel pendant les 5 jours jusqu'à sa mort.
Ouais, il transforme cette chambre en salle de shoot, quoi.
Dans les témoignages aussi, ils disent, parce que la première théorie, c'est aussi que les meubles renversés, etc., c'est lui qui est devenu un peu fou à cause de la cocaïne, etc. Le personnel de l'hôtel, eux, disent qu'il était très courtois, qu'il prenait des repas d'athlètes, des repas à heure fixe.
Alors justement, j'ai un extrait par rapport à ça. Donc il y a des témoignages, en fait, sur son passage. Et c'est des témoignages un peu contradictoires. Vous allez voir qu'on a deux sons de cloche, écoutez.
Alors Pantani est-il mort d'une overdose accidentelle comme la justice l'a affirmé? Ou a-t-il été assassiné? Par qui? Et pourquoi? Nous retournons à Rimini. Nous y retrouvons Oliver Laghi. Ce restaurateur a servi son dernier repas à Pantani dans sa chambre d'hôtel. C'était la veille de sa mort, vers 20h.
Quand je l'ai vu, il était fatigué. Fatigué. Mais il était lucide. Il a répondu d'une façon claire à toutes mes questions. Il n'était absolument pas en plein délire à ce moment-là. Après, je ne sais pas.
2 heures après, justement, Pantani sort sur le palier et discute avec deux hommes, dont l'un occupe la chambre voisine. Ils ne veulent pas s'exprimer devant les caméras. Avec Marco Bonarigo, le journaliste italien avec qui nous avons mené l'enquête, nous joignons l'un d'entre eux au téléphone.
Il disait des choses incohérentes. Il parlait de complots et d'histoires comme ça. Je le regardais tout en étant abasourdi. Je me souviens de ce qu'il m'a dit précisément. Il s'est tourné vers moi en me disant « Pourquoi tu me regardes comme ça ? Je vais t'en mettre une. » Je me souviens plus de tout, mais je me rappelle qu'il avait un ton menaçant.
Voilà, alors, j'ai une petite phrase, je suis désolé, ça me fait rire, ça devrait pas. J'ai une petite phrase, les mêmes témoins qu'on vient juste d'entendre, en fait, ont rapporté une citation qu'il aurait dit. Alors, les deux témoins disent qu'il dit des choses incohérentes, en fait, il le croise la veille de sa mort, il dit des choses incohérentes, et il dit cette phrase, écoutez bien, je vous laisse méditer. « Si toi, tu es ici, Tu n'es pas de l'autre côté, mais ils te regardent, même pour ce que tu fais, et tu peux pas sortir du tunnel.
Mais alors, voilà.
c'est David Lynch.
Il s'est transformé en Jean-Claude Van Damme.
C'est complètement clair hein, ce qu'il vient de dire.
Toi, Younes, tu comprends.
Ouais. Ah bah oui.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que en fait, la cocaïne, ça peut avoir cet effet, ça provoque des comportements de maniaco-dépressifs où tu alternes en fait des phases où tu es très posé, tu es très calme, avec des phases où tu deviens complètement fou. Ouais. Et donc finalement, ces témoignages contradictoires, ils peuvent être logiques.
Ils peuvent être tout à fait logiques.
D'où le côté Jean-Claude Van
Damme. On va juste revenir un petit peu sur l'enquête, parce qu'effectivement,
revenir sur la scène de crime qui est incroyable.
Alors voilà, on va revenir sur la scène de crime. En fait, la première décision, comme on l'a dit, c'est que bon, il est mort par overdose, c'est la version officielle, basta. Il y a une seule personne qui a jamais accepté, enfin deux personnes, je dirais, qui n'ont jamais accepté cette décision de justice, c'est sa mère,
sa maman,
Tonina Pantani, et Philippe Brunel, qui a écrit un bouquin en 2007 où il rapporte toutes les incohérences de l'enquête.
Et d'ailleurs, on peut le dire, même si on revient dessus après, qu'en 2014, on va réouvrir l'enquête.
Exactement,
et on va repointer.
Je voulais en revenir là. Effectivement, en 2014, donc 10 ans après les faits.
C'est fou quand même.
10 ans après les faits, on réouvre l'enquête parce qu'effectivement, on commence à se dire qu'il y a peut-être des doutes.
Ça a été un peu rapide.
Marco Pantani a-t-il été assassiné ? 10 ans après sa mort, officiellement une surdose de cocaïne, la question s'affiche en une des grands quotidiens italiens. La justice décide de rouvrir l'enquête. Il y aurait de nouveaux éléments, des traces de coups auraient été constatées sur son cadavre, son corps déplacé. Le coureur aurait été forcé à ingurgiter de la cocaïne. Une quantité énorme, 6 fois la dose létale, elle n'aurait pu être prise que diluée dans de l'eau. Les fans de Marco Pantani attendent des explications.
Je ne crois pas à un suicide, je n'y ai jamais cru.
C'était un complot et après toutes ces années, la vérité va enfin éclater au grand jour.
Parce voilà, oui, vas-y.
En fait, non, ce que je voulais dire, c'est que sur la première thèse, juste suite à sa mort, on peut dire suicide, overdose, on ne sait pas vraiment, en fait. Parce que c'est ce que dit un médecin d'ailleurs dans un reportage, on ne se suicide pas à la cocaïne. En revanche, quand on en prend beaucoup, tu prends des risques pour ta santé et ça peut finir par arriver. Alors, c'est assez autodestructeur comme comportement.
Il prenait des antidépresseurs également, il faut quand même le signaler. Je crois qu'à la deuxième... Alors, en gros, spoiler alerte, la deuxième décision de justice va être approximativement la même que la première.
Ouais.
Et pourtant, il y a plein d'incohérences dans cette enquête. Dans cette enquête, on va les énumérer.
Je ne sais pas si c'est des incohérences ou des... Enfin, alors, elle a été malmenée, cette enquête.
Elle a été malmenée, elle a été bâclée. Alors, ce que dira Brunel, c'est est-ce qu'elle a été bâclée ?
Ça a été vite,
ça a été très vite. Est-ce qu'elle a été bâclée ou orientée ? Voilà, c'est la grande question. On ne sait pas vraiment. Alors, quelles sont ces incohérences, déjà ?
Il y a eu la porte d'entrée de sa chambre qui a été enfoncée par la police, alors qu'apparemment, elle aurait complètement pu être ouverte normalement. Voilà, la première que j'ai.
De toute façon, le personnel de l'hôtel qui a découvert son corps s'est introduit de toute façon déjà dans la chambre.
Donc c'est bizarre d'avoir défoncé la porte derrière.
Exactement. Alors, la chambre de Pantani ressemble à un théâtre de guerre. Tout est renversé. Les meubles sont tous renversés. Alors,
tout est renversé, comme si lui était en délirium, c'est ce qu'on dit. Pantani est en délirium, très bien. Et donc, quand on est en délirium, on renverse des choses, on casse des choses. Tout est renversé, mais tout ce qui est ce qui craint un peu, comme les miroirs, par exemple, ne sont pas du tout cassés. C'est comme si on avait mis une chaise sur le miroir de la salle de bain, qu'on avait mis le miroir par terre, qu'on avait mis la chaise par terre.
On dirait un bordel organisé, quoi.
Tu m'enlèves les mots de la bouche.
On trouve des restes de repas, repas asiatiques qu'il n'aurait absolument pas commandé. Et en plus, la cocaïne coupe l'appétit. Donc, en général, tu manges pas trop quand t'es sous coke.
Alors, il commande beaucoup de repas. C'est ça qui est assez bizarre, effectivement.
Pour peut-être décaler la date de sa mort, peut-être.
Apparemment, d'après ce que dit un spécialiste, je sais plus si j'ai l'extrait, d'après ce que dit un spécialiste, effectivement, la cocaïne coupe l'appétit. Et lui, il commande quand même des repas. Il se nourrit principalement de pizza et de coca, visiblement.
Équilibré, c'est jamais.
C'est équilibré. Alors,
pour un sportif.
Et parfait. Alors, ce qu'ils disent aussi, c'est qu'en fait, tout le monde dit Pantani, ça fait 3 jours qu'il n'est pas sorti de sa chambre, personne n'est venu, etc. Alors qu'en fait, on comprend que la vidéosurveillance ne surveille pas tous les accès et qu'apparemment, il y a un accès qui n'est pas surveillé. Et donc, lui a très bien pu sortir et des gens ont très bien pu rentrer.
Exactement.
Sans qu'on le sache.
Il y a un accès qui n'est pas du tout surveillé.
Il y a des angles morts, en fait, avec les caméras qui permettent.
Alors, il n'y a même pas de système de vidéosurveillance, je crois, dans l'hôtel. Et en fait, il y a un accès qui passe pas par la réception. Donc le personnel n'est pas obligé de te voir. Il y a un truc qui est très bizarre, c'est qu'effectivement il aurait, dans un délire paranoïaque, renversé tous ses meubles dans un délire de violence, et il n'y a aucune trace sur ses doigts, aucune trace de blessure qui laisserait penser que ce serait lui qui aurait fait tout ça, qui aurait pété un câble.
Donc c'est clairement une lutte ou chose d'organisé autour.
Quelque chose d'organisé. Alors on sait que il y a un truc qui est encore une chose bizarre, c'est que l'appareil à air conditionné a été non pas cassé mais démonté. Et visiblement, il y a eu besoin d'un tournevis. Et l'appareil se situe à plus de 2 mètres de hauteur, donc il fallait forcément grimper sur quelque chose.
Est-ce qu'il n'aurait pas caché sa coke là-dedans?
Je sais pas. Alors, est-ce que...
Les blessures à la tête aussi.
Est-ce que... Hein?
Les blessures à la tête.
Alors, attends, on va venir sur les blessures, mais... Déjà, il y a un truc... Alors, est-ce que Pantani était dans un délire paranoïaque? Ou est-ce qu'effectivement, on a essayé de créer une espèce de mise en scène? C'est très bizarre. Effectivement, tu mets le doigt sur quelque chose, Olivier.
J'aime ça.
Il y a... À part sur le kiki de Younes, quand même. Et,
Il prend toute la pièce aussi.
Ça va.
Donc, il a des blessures. Il a un certain nombre de blessures, effectivement.
Oui, des blessures à la tête qu'il est tombé, il s'est fait mal tout seul. Sauf que la manière, en tout cas dans le rapport, c'est il est tombé, c'est comme ça qu'il s'est fait mal. Dans toutes ces blessures ne représentent absolument pas la façon qu'il aurait eu de tomber. Qu'on a retrouvé.
Alors en fait, il a une blessure sur le nez, il a une blessure sur l'arcade, ouais. Il a une blessure sur la tête, une bosse sur la tête.
Qui sont pas des grosses blessures.
Hein, du crâne. Ouais.
Et il a une blessure derrière l'oreille, oui. Qui pourrait laisser penser qu'effectivement on l'a grippé avec le poing.
On l'a grippé, tout à fait.
Alors à ce propos, j'ai l'extrait d'un médecin en fait qui est sur le plateau de Stade 2. Il parle de la mort de Pantani. Il est face à Philippe Brunel qui lui est pour la réouverture de l'enquête et qui il défend pas la thèse de l'homicide, mais en tout cas, il dit qu'en fait, la thèse officielle est un petit peu bizarre. Et vous allez voir que le médecin qui est le président de SOS Addiction, il va lui mettre un petit taquet, en fait, c'est rigolo. Sa théorie, en tout cas, est intéressante en tant que spécialiste, écoutez.
Donc ça, pour vous, Dr Lowenstein, c'est de la pure fiction. C'est pas possible.
Oui, à chaque fois, bon, les signes de coups, il n'y a pas plus de... J'ai envie de dire, c'est la cocaïne qui entraîne le plus d'automutilation, de blessures, pour des raisons vraiment d'excitation, de neuroexcitation. Donc, un cocaïnomane, encore une fois, qui consomme pendant 5 jours des quantités importantes, ça serait presque anormal qu'il ne soit pas blessé, qu'il ne soit pas automutilé. L'histoire de la bouteille, c'est très joli en film, mais encore une fois... Pantani n'était pas une petite crevette de 10 kilos que l'on pouvait manipuler de cette façon-là. Donc ça veut dire vraiment un combat, une difficulté, encore une fois, des vomissements, des régurgitations ou une noyade dans le poumon avec une bouillie de 50 grammes dans une bouteille.
Voilà, il parle d'un détail qui est effectivement important.
Oui, c'est la bouteille.
Voilà, on découvre dans sa chambre également une bouteille, alors qui attire pas l'attention visiblement des policiers.
Oui,
elle n'est pas analysée d'ailleurs comme presque rien. Ils font pas d'analyse ADN ni de relevé d'empreinte.
Les policiers arrivent et font une analyse comme si c'était déjà un suicide, ouais. et pas du tout comme si c'était une
ils
scène
se posent
de crime.
Pas de question,
après, ouais. Le médecin dit que c'était pas une crevette de 10 kilos, mais c'était pas non plus un super,
voilà,
Walter,
alors,
un super
en fait,
Walter de 87 kilos.
C'était quand même un cocaïnomane aguerri.
Et après, en fait, pour tuer quelqu'un à la coke, on t'explique quand même qu'il faut ingérer de telles doses que ça paraît compliqué de lui faire ingérer en le diluant dans l'eau et en le forçant.
Voilà, on parle de l'hypothèse. En fait, l'hypothèse, d'après la présence de cette bouteille, c'est qu'effectivement, des gens qui lui en voulaient ou qui voulaient lui voler de l'argent, parce qu'on va en parler, il y a de l'argent qui a disparu en fait dans sa pièce. Alors, on ne sait pas s'il a acheté de la drogue avec ou si on lui a volé, dans le cas où quelqu'un se serait introduit dans sa chambre. Mais en fait, l'hypothèse du meurtre en fait, défend l'idée selon laquelle on l'aurait obligé à ingérer de la cocaïne diluée dans de l'eau.
Ouais.
Donc d'où la présence de cette bouteille. Effectivement, le problème de cette hypothèse, c'est qu'on a du mal à imaginer quelqu'un boire de l'eau mélangée avec de la cocaïne sous la contrainte, quoi. Bon,
il en faut des litres apparemment.
Et en plus, il en faut beaucoup.
Cela dit, on l'a pas identifié, on l'a pas analysé cette
bouteille.
Non,
tout donc non,
cette bouteille n'a pas été analysée. Et elle a été détruite.
Comme ses organes, comme
oui.
Non, mais c'est surtout
son
le
cœur,
fait qu'elle
ait été détruite.
Qu'elle ait été détruite, qui crée finalement des doutes.
Oui,
par
qui crée des doutes.
En fait, c'est
à une piste potentielle qui ne pourra jamais être explorée. En fait,
finalement, ce qui crée le plus de soupçons, c'est que l'enquête a été très mal menée. Et d'ailleurs, dans le reportage sur sa mort, on voit un spécialiste des scènes de crime qui regarde la scène. Exactement, Monsieur Bloch, et il dit il y a un manque d'organisation, ils touchent tout avec leurs mains alors qu'il y a peut-être des empreintes. Ça a été très mal mené.
Effectivement,
ils font tomber des objets.
J'ai d'ailleurs un petit extrait à ce propos. On va écouter le spécialiste, c'est
Monsieur Bloch.
Jean-Marc Bloch.
C'est Monsieur Bloch, effectivement.
On l'aime,
qui, en fait, l'équipe de Stade 2 le place devant les images de l'enquête. En fait, on voit les policiers travailler dans la chambre de Pantani. Et écoutez ce qu'il va dire.
Comme la famille Pantani, Jean-Marc Bloch a du mal à comprendre pourquoi les enquêteurs ne s'occupent pas de la fameuse bouteille.
Quand on voit une bouteille comme celle-là, c'est bien évident
qu'on recherche des empreintes dès qu'on la découvre. C'est vrai aussi que les techniciens de scène de crime auraient fait, sur cette poudre blanche qui entoure la bouteille, des prélèvements et auraient mis tout ça avec des pincettes, des cotons imbibés de cette poudre blanche dans des petits pochons en plastique numérotés, inventoriés, on a trouvé ça à tel endroit, etc. Tout ça, et je vous dis, ça paraît un peu désordonné, voilà. Bon. Non, tout ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, c'est pas mal fait, le travail est pas mal fait. Pour une scène accidentelle, pour un décès accidentel, pour une scène de crime, c'est parfois un peu léger.
C'est un peu léger.
Bah c'est exactement ce que tu disais, c'est que ça a été traité comme un accident.
Oui,
et,
suite,
et on ne s'est jamais dit que ça pouvait être un meurtre au moment où l'enquête a été menée.
Alors, autre détail qui pose quand même question.
Croustillant,
c'est...
ah non.
Croustillant, c'est sa montre. Mais ça, c'est incroyable. Sa montre, en fait, alors... on découvre sur son bras une montre dont le mécanisme... Le mécanisme n'est pas cassé, mais sa montre est arrêtée sur 17h. Enfin, 16h54, je crois. Enfin.
Ah, 17h ou 16h54
16h55, plus exactement. J'ai
et
l'heure.
32 secondes.
Et 32 secondes. Et dans un premier temps, les médecins légistes ont justement diagnostiqué sa mort autour de cette heure-là, avant de se raviser et de dire que finalement, il était mort en fin de matinée.
Oui, c'est...
Donc on s'est passé très bizarre. Pourquoi cette montre est arrêtée à cette heure-là? Elle ne semble pas cassée. Enfin,
ça,
encore,
on a
encore...
aucune explication. Là.
Mais non, on n'a aucune c'est explication. Incroyable. C'est encore un phénomène qu'on ne peut pas expliquer, comme beaucoup de choses dans la mort de Pantani. Il y en a encore énormément. Hein. Il y a énormément de choses à dire. Et moi, j'ai un détail, encore une fois, très croustillant, dont Philippe Brunel parle dans son livre. En fait, il faut savoir que quelques jours après sa mort, au pied de son hôtel, de la résidence Le Rose à Rimini, il y a une espèce de ouais. commémoration. Enfin, tous ses fans vont déposer des fleurs et des bougies. Et en fait, Philippe Brunel se promène et il découvre une petite lettre au milieu de toutes les lettres de fans, qui est quand même très, très bizarre. Je vous la lis. Elle est datée du 16 février 2004.
Deux jours après.
Elle commence en disant « Ciao Marco, c'est moi ton ami que peu et même très peu de gens connaissent. Ok, je suis désolé que tu ne m'aies pas appelé, mais je sais pourquoi. J'ai désiré que ça se finisse comme ça. Mais tu sais ce que je pense. Pour moi, tu étais un perdant parce que tu n'as jamais voulu t'accepter et maintenant tu as fait un grand bordel, comme toujours. Mais ton vécu restera et au fond de ta conscience, ce que je t'ai toujours dit et répété tout le temps, tu n'as pas envie de vivre, mais de souffrir. Maintenant, tu as réussi. Ciao, tuo Paolo. » Donc on ne sait pas qui est ce Paolo.
C'est triste en même temps. Comme,
c'est chelou. Hein, ouais.
Qu'il a toujours voulu souffrir. Et d'ailleurs, il y a un truc qu'on n'a pas dit qui est important, c'est qu'aussi, un peu avant sa mort, il va appeler deux fois la réception en demandant qu'on appelle la police, en disant « il y a des gens qui m'embêtent », etc. Et on ne comprend pas pourquoi d'ailleurs personne ne réagit, personne ne monte. Est-ce qu'on se dit « il est un peu dingo », on le laisse dans son délire, etc.
Dingo.
Dingo, tout à fait.
Alors à ce propos, encore une fois, dans le livre de Philippe Brunel, il y a un témoin qui est basketteur d'ailleurs et qui joue à Rimini, qui est une équipe de deuxième division.
C'est
de
Michael
basket.
Jordan.
Bah, c'est le meilleur joueur de Rimini. Hein.
Et il occupe une chambre au même étage. Et il raconte en fait qu'il croise Marco Pantani la veille de sa mort. Et en fait, Pantani lui aurait dit... qu'il était dérangé par des bruits dans la chambre à côté de lui, et le basketteur lui a dit gentiment que bah il y avait personne en fait dans la chambre à côté de lui. Voilà. Donc voilà, encore une fois, c'est un témoignage, mais il y a des témoignages contradictoires. Il y a des gens qui disent qu'il avait l'air d'avoir toute sa tête, il y en a d'autres qui disent qu'il est dans un délire totalement
quasiment en fait. Selon les témoignages, quand ils sont recoupés, on a l'impression d'avoir deux personnes dans le même hôtel qui ressemble à Marco Pantani.
Ouais, c'est ça.
Ils sont pas Marco Pantani, quoi.
C'est,
ouais.
C'est ça. Marco Pantani n'est pas mort. Il y avait deux
sosies.
C'était
un sosie.
Alors, l'hypothèse. Alors, finalement, on l'a dit, hein, la décision de justice, c'était que. La décision de justice, c'est qu'effectivement, il se serait peut-être suicidé, en fait.
Oui, on ne sait pas.
On ne sait pas. En fait, il est mort par overdose. Il se serait peut-être suicidé. C'est vrai que le problème de l'hypothèse du meurtre, évidemment, il y a plein d'incohérences dans l'enquête. Il y a plein d'incohérences, il y a plein d'indices qui pourraient laisser penser qu'il s'est fait tuer. Mais le problème du meurtre, c'est qu'on n'a ni suspect, ni mobile. Bon, il pourrait y en avoir. Hein.
Oui, l'argent, la vengeance.
L'argent,
puis juste un dingo.
On parle que très récemment avec cette histoire de 2009 et de la Camorra qui est de près proche de finalement ce retournement de situation dans le Giro, et peut-être que ces liens se seraient. Aurait perduré en fait avec les années, et que finalement consommateur de drogue forcément proche de certains milieux,
c'est dangereux.
Voilà, c'est dangereux.
Il est proche de certains
milieux.
Un peu
comme Maradona et la Camorra à Naples quand ils faisaient carrière.
Exactement. Exactement.
Et vous en pensez quoi?
Ah ben moi j'ai tendance à aimer en fait l'hypothèse du polar, donc forcément en fait celle du crime. et du complot. Mais c'est trop facile. Alors, pour le moment, tant qu'il n'y a pas réellement de preuves et que l'enquête n'est pas forcément aboutie, c'est difficile de plonger dans les théories du complot et de se dire ok, Marco Pantani, martyr, a été tué. Voilà.
Mais, ça avait quand même l'air d'être quelqu'un d'assez autodestructeur. Hein.
Ouais, sulfureux.
Ouais, ouais, c'est sûr. Quelqu'un d'autodestructeur.
Mais c'est assez triste. Hein. Enfin, c'est,
à savoir,
bah, c'est un personnage tragique. Hein,
ouais, ah, bah, c'est un héros tragique, tout à fait.
C'est un héros tragique.
À savoir qu'en Italie, pour avoir posé des questions dans mon entourage, qui m'explique qu'en Italie, ça a été vécu comme un drame, et au-delà d'un drame, en fait, ça a été vécu un peu comme une forme de honte nationale, parce qu'en fait, les Italiens s'en sont complètement voulu d'avoir abandonné un de leurs champions. Ouais. Donc, il y a eu ce sentiment un peu de mec abandonné, qui avait le potentiel, finalement, de les faire rêver encore quelques années, et finalement, ils l'ont laissé un peu au fond du trou, et tout le monde avait du mal à se regarder en fait dans les yeux le lendemain de sa mort.
Ouais,
en fait,
hein. D'accord. Mais d'ailleurs, il les a fait rêver, puisque je crois que alors c'était peut-être la Gazzetta dello Sport qui titrait au lendemain de sa victoire au Tour de France, en fait, qui disait qu'il avait sauvé l'honneur de l'Italie, qui avait perdu en fait en Coupe du Monde contre l'équipe de France. On en a parlé le mois dernier. Donc effectivement, c'était vraiment un héros, quoi.
Ouais, il a gagné sur le territoire français avec tout ce.
Il avait tout. Il avait tout. C'était un grimpeur. Il avait tout. Sa façon de
charismatique,
de vivre,
bien sûr.
Il était ultra charismatique.
Et puis il était salué comme tel aussi par ses adversaires, ce qui est toujours bon signe.
Oui, respecté aussi par ses adversaires.
C'est une sorte de guivarche, une guivarche de quoi.
De la montagne.
De la montagne.
De la montagne.
Bon ben bah messieurs, dames, merci pour ce numéro de PO.
Merci à toi,
chouette.
Michael.
Mais je vous en prie, et on va se quitter en musique avec
une jolie musique.
Avec les Vents Passent, qui parlent évidemment de Marco Pantani dans leur titre Rimini. Ciao, bye bye. Ciao.
Au revoir.
Au revoir.
Salut, salut.
Qu'est-ce qu'il t'a pris ?